tout de suite le journal. Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Situation toujours très tendue sur les Champs-Élysées. Des gilets jaunes font face aux forces de l'ordre depuis la fin de la matinée. Barricades, feux, nous serons sur place. Vous entendrez Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui met en cause Marine Le Pen. Moins de monde que samedi dernier. 81 000 manifestants à 15h contre 240 000 à la même heure samedi dernier. Des opérations aussi en région. Nous serons à Nice avec une opération escargot. Dans le reste de l'actualité, les Français qui gardent une chance en finale de la Coupe Davis grâce à leur victoire en double cet après-midi. Mais ils sont toujours menés 2-1 par la Croatie.
Europe 1. Et pour commencer, direction les Champs-Élysées.
Et situation, je vous le disais, toujours très tendue ce soir avec des gilets jaunes face aux forces de l'ordre. Ça dure depuis ce matin. 11h, les manifestants ont monté par endroits des barricades avec des feux. Rémi Botsaron, vous êtes au milieu de l'avenue et visiblement, ces gilets jaunes qu'on entend sont bien déterminés à rester.
Oui, effectivement, même si la situation semble évoluer, elle évolue en fait de minute en minute à l'instant. C'est un convoi impressionnant de dizaines de véhicules de CRS qui vient de faire son apparition, qui a remonté cette avenue, qui a dispersé toute la foule qui était là en quelques minutes. Il y avait cette barricade, vous le disiez, improvisée, l'une de ces barricades improvisées avec du mobilier urbain, avec des palettes en bois, avec des barrières également métalliques. Un grand feu qui a été éteint par les pompiers à quelques instants. Mais donc, ce convoi de CRS qui a dispersé cette foule, la foule qui se retrouve maintenant dans les rues adjacentes, qui attend et qui est toujours déterminé. Il y a beaucoup de gilets jaunes, des familles entières parfois qui restent, qui veulent rester comme Olivier, venu ce matin de Normandie.
On est arrivé au démarrage, on n'était pas vraiment méchants, c'était pas, vraiment, il y avait de la colère mais il n'y a pas de violence. On s'est fait charger, on s'est fait gazer d'entrée de jeu, puis au paquet au démarrage, je pense que ça a mis tout le monde en colère. C'est pour ça que les gens ne sont pas partis. Nous, c'est même la première fois que je vois ça où les gens restent, malgré que ça chauffe dans tous les côtés. Et je trouve ça, je trouve que c'est un message fort, quoi. Je sais qu'il y avait beaucoup de policiers. Si c'était pour nous faire peur, bah ça n'a pas marché, quoi. Pas du tout.
Voilà, il y a un nouveau moment de flottement et d'indécision là sur les Champs-Élysées à l'instant sous mes yeux, puisque certains éléments ont repris possession de cette barricade, ont de nouveau allumé un feu. Les CRS semblent se diriger de nouveau vers ici avec de nouveau l'envoi de gaz lacrymogène. Comme il y en a beaucoup depuis ce matin, la foule est en train de remonter les champs. La foule qui a repris possession des champs après le passage de ce convoi de CRS et les éléments déterminés, encore une fois, certains disent qu'ils pourraient rester ici toute la nuit.
Rémi Botsaron en direct des Champs-Élysées. Dernier bilan du ministère de l'Intérieur, c'était à 15h80. 1000 manifestants dans toute la France contre 244 000 samedi dernier à la même heure, 8 blessés dont 2 gendarmes, 35 interpellations avec 22 gardes à vue. Alors comment réagissent les gilets jaunes qui étaient venus à Paris pour manifester dans le calme comme au Champ de Mars où là le rassemblement était autorisé? Pierre Herbulot a recueilli leurs témoignages avec des avis, vous allez l'entendre partager.
C'est dommage parce qu'ils nous cassent tout en fait. C'est ça, au lieu d'être pacifiste, calme et tout, il y a des abrutis.
Il y a une unité qui pourrait se faire, un élan populaire. Je trouvais ça vraiment beau, mais là c'est gâché par ce que je vois, du moins sur les Champs-Élysées. Si ça tourne mal, c'est pas le groupe qui est là à l'initiative.
Alors, on sait que de toute façon, pour chaque manifestation, que ce soit les enseignants, que ce soit pour n'importe quoi, il y a toujours des casseurs qui viennent pour casser. On le sait, tout le monde le sait, donc je ne pense pas que ça puisse entacher le mouvement des Gilets jaunes. Après, il faut bien se dire quand même que le but est de se faire voir. Donc, ne pas être uniquement calmement pacifiste comme nous sommes là à l'heure actuelle sur le Champ de Mars, mais faire bouger un petit peu les choses, c'est... Enfin, moi, je suis pas contre passer ma nuit encerclée par des CRS, hein.
Témoignage de gilets jaunes qui manifestaient cet après-midi dans le calme au Champ de Mars.
En première ligne pour commenter cette mobilisation des gilets jaunes depuis ce matin et les violences, le ministre de l'Intérieur.
Christophe Castaner qui a mis en cause Marine Le Pen suite aux violences sur les Champs-Élysées.
Sur Paris, on voit une évolution à l'appel de Marine Le Pen qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées. Effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Nos forces de sécurité avaient parfaitement anticipé cette situation. Ce que je constate depuis ce matin à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires. Mais nous ne sommes pas en mesure de protéger celles et ceux qui seraient emportés par les actes de violence de ceux qui sont présents physiquement. Ce matin à Paris, mais pas seulement à Paris, en province aussi, nous avons des alertes sérieuses, pourraient contribuer avec violence aux manifestations des Gilets jaunes dont j'ai pu évoquer samedi dernier le caractère bon enfant. Ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Christophe Castaner avec Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Michaël Darmon, éditorialiste au service politique d'Europe 1, nous a rejoint en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
On le voit, Christophe Castaner monte donc en première ligne. Mais qu'est-ce qui se joue finalement en ce moment à l'Élysée, en coulisses?
Bien évidemment, on a entendu hein, les ministres de l'Intérieur. On ne peut pas réduire ce mouvement à l'extrême droite. Et la question de savoir si les Gilets jaunes vont laisser les éléments politiques prendre leur mouvement. Toute la journée, vous l'avez dit, l'exécutif a été en contact permanent avec les élus de La République En Marche. Ces derniers font remonter leurs analyses vers Matignon et l'Élysée et leurs propositions pour savoir comment sortir de ce conflit. Il faut également avoir à l'esprit qu'ils sont souvent en désaccord. Faut-il renoncer aux prochaines taxes ou les maintenir? Quelle réponse vers les classes moyennes? À l'heure actuelle, selon mon information, du côté de l'exécutif, on dit qu'il n'est pas question de bouger sur la trajectoire fiscale sur le diesel.
Et quel est l'enjeu pour Emmanuel Macron qui doit annoncer des mesures justement mardi?
Eh bien évidemment, son enjeu, il est absolument crucial. C'est l'épreuve de vérité de son quinquennat après 18 mois au pouvoir. Les réformes sont lancées, son projet maintenant est connu et ce sont les réactions souvent de la part de Français qui ont d'ailleurs voté pour lui, hein, ces classes moyennes qui souvent ont voté pour lui, aujourd'hui sont en désaccord, sont en désarroi. La question de savoir c'est s'il arrive à juguler ce mouvement, à reprendre la main politiquement, à reprendre le cours de son projet de transformation de la France, ou alors si jamais il recule à ce moment-là, au risque de passer pour celui qui aura arrêté d'être un réformateur.
Merci beaucoup Michaël Darmon.
Et je précise que je recevrai dans quelques minutes Lauriane Rossi, députée La République En Marche, on lui posera la question. Moins de monde mobilisé, mais toujours des actions en région, Fabienne.
Ils étaient plusieurs centaines de gilets jaunes à Bordeaux, dans le centre. Ils ont tenté de rentrer dans l'hôtel de ville avant d'être refoulés par les forces de l'ordre. Manifestation aussi à Nice, beaucoup plus calme et surtout en mode opération séduction, Jacques Terrance.
Oui, et ici à Nice, il y a eu pas moins de 3 opérations simultanées cet après-midi. Une opération péage gratuit au nord-ouest de la ville. Une manif des piétons en centre-ville qui a rejoint une opération escargot des motards, ambulanciers et VTC sur la promenade des Anglais. Mais ici, un mot d'ordre, pas de blocage pur et dur.
Pour éviter aux citoyens de les emmerder, tout simplement. Parce que c'est pas le problème, c'est pas le peuple, c'est le gouvernement.
Et pas question aussi de laisser éclater la moindre violence, comme à Paris, question d'image auprès de la population.
Tout à l'heure, on a manifesté devant la mairie. Quelqu'un a commencé à vouloir forcer les grilles. Stop ! Là, on a dit non. Vous voyez, c'est la preuve qu'on ne veut pas, justement, ce qui se passe à Paris. C'est pas ça qu'on veut pour l'instant. C'est que tout ce qu'on veut, c'est que Macron nous entende une bonne fois pour toutes. La fraternité, elle est là. Et plus le peuple va se fraterniser, plus ça va bouger.
Et à Nice, si tout se passe bien d'après cette manifestante retraitée, c'est aussi grâce au comportement de la police.
La police, on sent presque qu'ils sont complices avec nous dans leur regard. Ils ont un regard pas du tout condamnant. Ils sont là pour la sécurité, pour les débordements, que ça ne se produise pas. Mais on sent une sympathie.
Voilà, et donc ce soir à Nice, pas d'incident particulier à signaler.
Jacques Terrance à Nice pour Europe 1.
À suivre, une autre mobilisation aujourd'hui à Paris, un rassemblement pour dire non aux violences faites aux femmes.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h11, la suite du journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Rassemblement cet après-midi à Paris entre Opéra et République contre les violences faites aux femmes.
Avec un slogan hashtag nous toutes pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le cortège de jeunes militantes au micro de Pauline Jacquot qui dénonce entre autres une justice pas assez sévère.
Moi ma pancarte elle dit j'ai dit non, il a dit tu peux pas me faire ça, c'est des histoires vraies.
Ça vous est arrivé?
Oui. Oui, toutes les deux c'est des choses qu'on a vécues en fait.
Je suis là pour parler des violences faites aux femmes, pour que les violeurs et les agresseurs soient condamnés. Parce que là, on a encore eu un petit coup avec l'affaire Georges Tron. Donc on aimerait que la justice se rende compte que les femmes, elles ne sont jamais responsables des violences qu'elles subissent. C'est ce qui est écrit sur la pancarte. Et que si une femme se fait violer, c'est parce qu'il y a des violeurs. Et c'est l'unique raison.
Quand on voit les financements qui sont encore bien en deçà de ce qu'il faudrait, quand on voit que aujourd'hui les professionnels de la justice, de la police, de la santé, de l'éducation ne sont pas encore formés aux questions des violences envers les femmes alors que ça concerne toutes les femmes. Je pense que c'est un sujet qui est aujourd'hui un sujet majeur de société et donc c'est pour ça que je suis là.
Témoignage recueilli par Pauline Jacquot. Notez que Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sera l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews et Echo demain à 10h.
C'était le journal de Fabienne Lemoyle. Merci beaucoup Fabienne.
Au Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. On scrute le ciel de nos régions. Une couleur en commun, le gris.
Et je commence, Philippe, par la façade ouest où il pleuvra en premier. De l'Aquitaine aux côtes normandes, les pluies seront fréquentes dès le matin sous un vent fort. Et l'après-midi, vous retrouverez quelques éclaircies, mais gardez avec vous le parapluie parce que les averses ne seront jamais très loin. Des Pyrénées aux Hauts-de-France, les pluies débutent aux alentours de 10h jusqu'au soir, avec de la neige, des 1200 mètres sur le Massif central et 1003 sur les Pyrénées. De l'Occitanie à la Provence-Côte d'Azur, prudence de nouveau, des pluies ponctuellement fortes s'abattent, surtout sur les Cévennes. Et puis du Grand Est aux Alpes centrales, temps plus calme avec un ciel qui se voile progressivement en fin de journée avant l'arrivée de quelques gouttes en soirée, cette pluie qui arrive par l'ouest. Je vous donne quand même la fourchette des températures en ce dimanche. Elles sont stationnaires les valeurs, hein, similaires à peu près à celles d'aujourd'hui pour l'après-midi entre 6 à Bourges et 17 à Marseille.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports, c'est avec vous Axel May. Bonsoir Axel.
Bonsoir.
Et on va prendre la direction de Lille pour la finale de la Coupe Davis. Le match de double que la France se devait absolument de gagner pour continuer à y croire a été très très serré.
Oui, après avoir vu les Bleus mener 2-7 à 0 et faire le break dans le troisième set, le public du stade Pierre-Mauroy se disait « Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut vont s'imposer rapidement face à la paire Dogic-Pavic ». Ça a été, Corinne Boulou, plus compliqué et plus stressant que prévu. Hein.
Oui, mais il y a du soulagement ce soir hein, dans le camp français, Axel, après la victoire du double tricolore qui maintient un petit espoir avant la journée décisive de demain. Les tenants du trophée, poussés comme jamais par leurs supporters dans une ambiance de feu ici, se sont fait peur, effectivement, avant finalement de s'imposer à la quatrième balle de match dans le tie-break du quatrième set. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont donc accompli la mission qui leur a été confiée en s'imposant en un peu plus de 3h30, 6-4, 6-4, 3-6. 6-7-6 face à la paire croate Dodig-Pavic. On est en vie, a crié Pierre-Hugues Herbert à l'adresse des supporters. À côté de lui, un Nicolas Mahut qui savourait son petit garçon dans les bras. Quant à Yannick Noah, en larmes, en chantant la Marseillaise avant le début du double, eh bien, il était remonté comme une pendule tout à l'heure, soulagé lui aussi que son capitana soit prolongé de 24 heures avant de tirer sa révérence demain soir.
Corinne Boulou et Yannick Noah se trouvent actuellement dans le vestiaire de l'équipe de France et devraient rapidement donner les noms des joueurs qui disputeront les simples demain. Le premier simple, Philippe, pourrait être Pouille face à Cilic.
On va parler de foot maintenant, direction le Parc des Princes pour le match de l'après-midi de la 14e journée du championnat de France.
Et sans surprise, le PSG, même sans ses stars Mbappé et Neymar blessés, mène contre Toulouse. Le PSG qui se dirige vers une 14e victoire consécutive en autant de matchs de championnat joués cette saison. Julien Froment, vous êtes au Parc et le public a eu le droit à un but magnifique de Cavani.
Ouais, exactement. 55 minutes de jeu, 1-0 pour le PSG face à Toulouse grâce à ce but signé Edinson Cavani. Un superbe enchaînement dans la surface de réparation, petit jongle pour lui-même du pied gauche, frappe enchaînée du pied droit, et donc à la 9e minute de jeu, Paris qui a ouvert la marque. Depuis, eh bien, les Parisiens, vous l'avez dit, hein, privés de Neymar et Mbappé, tous deux convalescents, eh bien, Paris gère au service minimum cette rencontre, mais Paris se dirige vers en effet une 14e victoire d'affilée avec bien sûr en ligne de mire, là, le match de Ligue des Champions face à Liverpool, match très important pour l'avenir tout simplement européen du Paris Saint-Germain cette saison. 56 minutes de jeu et donc 1-0 pour Paris face à Toulouse.
Julien Froment, suite de la 14e journée de Ligue 1 ce soir, à suivre dans Europe 1 Sport présenté par Lionel Rousseau avec notamment l'ancien champion Monaco, avant-dernier de Ligue 1 aujourd'hui, qui sera en déplacement à Caen.
Et on passe du foot au rugby avec un Stade de France bien vide qui attend les Bleus.
Une semaine après leur victoire contre les Argentins à Lille, les hommes de Jacques Brunel retrouvent le Stade de France face à l'Afrique du Sud. Il y a deux semaines, le stade n'était qu'aux deux tiers rempli. Ce soir, face aux Fidji, il devrait être au mieux à moitié plein pour assister au dernier test match de novembre, donc de l'équipe de France contre les Fidji. Et puis un mot de la Formule 1, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Lewis Hamilton a décroché la pole position.
Pour changer. C'était le journal des sports d'Axel May. Merci beaucoup Axel.
Europe 1.
Comment les députés de La République En Marche, le parti du président, ont-ils vécu les manifestations des Gilets jaunes d'aujourd'hui? Comment ça se passe sur le terrain avec les électeurs en colère? En colère au point de menacer plusieurs députés, parfois à leur domicile, avec une violence inouïe. On en parle avec Lauriane Rossi, elle est députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, juste après ceci.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1. À 18h20, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Vandel, et on va continuer à parler des Gilets jaunes avec votre premier invité.
Comment les députés de La République En Marche, le parti du président, ont-ils vécu les manifestations des Gilets jaunes d'aujourd'hui? Comment ça se passe sur le terrain avec les électeurs en colère? Bonsoir Lauriane Rossi.
Bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Première question, comment et où avez-vous vécu cette journée de manifestation?
Moi, j'étais dans ma circonscription ce matin, pas très loin d'ici. Je suis députée des Hauts-de-Seine, comme vous l'avez dit. J'étais
c'est
à Malakoff.
Au sud de Paris.
Au sud de Paris, juste à côté. J'ai trois villes, Bagneux, Malakoff, Montrouge. J'étais à Malakoff, aux journées portes ouvertes d'un établissement scolaire qui m'avait convié. Et puis ensuite sur le marché, à Malakoff, au contact de nos concitoyens pour échanger avec eux.
Donc en gros, il n'y avait pas de manif.
J'avais pas de manifestation dans ma circonscription. J'ai en revanche des citoyens, évidemment, qui ont beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes parfois aussi. Une impatience réelle et j'ai répondu à leurs questions.
Et vous avez regardé la télé, écouté les infos.
Évidemment, j'ai ensuite regardé la télé avec beaucoup d'attention. J'ai suivi avec tristesse et colère les scènes qui se sont déroulées à Paris, évidemment, toute cette journée, avec une pensée émue, évidemment, pour nos forces de l'ordre qui sont, depuis ce matin, face à ces scènes de violence, ces scènes de barricades qui exigent la plus grande fermeté. Mais je sais aussi que le mouvement des Gilets jaunes, ça n'est pas que ça. Les chaînes d'information continuent, nous ont abreuvés d'images parisiennes. J'aurais aimé aussi qu'on nous montre ce qui s'est passé dans les territoires. Et je sais que beaucoup de Gilets jaunes ont manifesté de manière totalement pacifiste et que beaucoup de députés, de mes collègues aussi, sont allés à leur rencontre.
Alors il y a deux lectures. On peut dire qu'il y a moins de monde que samedi dernier. 81 000 Gilets jaunes recensés à 15h dans toute la France, dont 8 000 à Paris, contre 244 000 au total, samedi dernier à la même heure, sont les chiffres du ministère. Mais inversement, samedi dernier, 74% des Français soutenaient le mouvement des Gilets jaunes et ils sont désormais 80%. Quelle lecture faites-vous? Ce mouvement est-il en hausse ou en baisse selon vous?
Je pense que cette approche par les chiffres, je vais vous dire, il serait 2000 ou 3000, ça aurait pour moi la même importance. Nous avons des Français qui, aujourd'hui, poussent un cri, il faut l'entendre, et j'ai envie de dire, quel que soit leur nom. Ce qui est intolérable, en revanche, c'est les violences auxquelles nous avons assisté. Ça n'est pas supportable dans notre état de droit, dans notre République. Il y a des lois qui encadrent le droit de manifester, le droit de circuler, et évidemment, le respect que nous devons aux forces de l'ordre et aux élus. Puisque j'ai certains de mes collègues qui, aujourd'hui, sont menacés, ont été menacés chez eux, à leur domicile, et ça, c'est inadmissible. Des parlementaires, des élus de la République ne doivent pas être menacés. Nous sommes dans un système républicain, une démocratie représentative, et le dialogue doit avoir lieu. Je sais qu'il a lieu avec beaucoup de gilets jaunes, puisque nous sommes bien entendu à leur écoute et le dialogue est là, mais la violence n'a pas sa place.
Alors, puisque vous en parlez, les permanences d'Anne-Laure Cattelot, députée du Nord, d'Amélie de Montchalin, députée de l'Essonne, ont été taguées, recouvertes d'affiches et même vandalisées. Bruno Castel, député de l'Eure, a reçu des menaces de mort par mail. Et en Haute-Saône, Christophe Lejeune a dû aller chercher ses deux jeunes enfants à l'école primaire sous escorte de la gendarmerie, car des hommes avaient pénétré le jardin de sa maison et l'avaient menacé lui-même. Que leur répondez-vous?
Et vous oubliez
que
Mireille Robert qui a...
Je peux citer son tweet, elle a tweeté ceci ce matin, Mireille Robert. « Cette nuit, 40 hommes casqués et cagoulés se sont introduits chez moi, allumant un feu et proférant des menaces. 40 contre une famille sur un domaine isolé. Chapeau le courage », écrit-elle. « Ils se sont enfuis dès l'arrivée des gendarmes. Cette dérive violente n'est pas acceptable. On partage tous ici cette indignation. Mais que peut-on faire? Qu'allez-vous faire? Allez-vous porter plainte ?»
Je crois que Mireille Robert a déposé plainte, elle l'a dit tout à l'heure. Et j'invite évidemment tout élu de la République à déposer plainte quand il est victime de menaces, qu'elles soient physiques, écrites, y compris même sur les réseaux sociaux, car nous sommes victimes aussi évidemment d'une violence extrêmement forte. Mais moi je veux dire et je veux croire que les Gilets jaunes, évidemment, ce n'est pas uniquement cette violence-là. Nous avons des groupuscules aujourd'hui, effectivement, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui ont infiltré, je dirais, ce mouvement de colère, qui encore une fois est légitime, et il faut l'entendre. Et je sais, je le redis, que le dialogue est possible avec beaucoup d'entre eux, et il est engagé avec nous. Nous sommes sur le terrain, nous ne sommes pas coupés des réalités.
Vous n'êtes pas la seule à trouver ce mouvement légitime, je veux dire pas la seule de LREM. Votre collègue députée de la Manche, Sonia Crimi, a été très remarquée lorsqu'elle a arboré elle-même un gilet jaune. Est-ce que vous approuvez sa démarche?
Sonia Crimi, à plusieurs reprises, a fait effectivement, a pris des initiatives qui, je dirais, ont tendance, d'une part, à susciter la plus grande attention des médias, c'est son choix, et parfois se désolidariser aussi des positions de notre groupe. Notre groupe, évidemment, permet aussi une certaine liberté de conscience. Moi, je ne souscris pas à cette démarche-là. En tout cas, revêtir le gilet jaune n'était pas forcément indispensable pour engager le dialogue avec eux. Voilà.
Mais vous comprenez que parfois, la hausse des taxes sur le carburant ne soit pas audible pour les Français les plus modestes. Là, je reviens au fond.
Oui. Moi, je pense que c'est bien plus profond que cela. Effectivement, la hausse du prix du carburant, qui, rappelons-le, est due pour 70% à l'envolée du prix du baril à l'international. Et pour 30%, il est vrai, dû à la trajectoire carbone que nous nous sommes fixés. Unanimement, toute la classe politique était d'accord pour faire converger l'essence et les ailes. Ça, c'est la première chose. Et c'est l'élément déclencheur d'une colère bien plus profonde. C'est-à-dire que nous avons là une colère qui fait ressurgir trois décennies d'un sentiment de déclassement, d'abandon des territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains d'ailleurs. Moi, je suis en milieu urbain et ce sentiment-là, je l'entends aussi. Ce sentiment que pour certains Français, de payer toujours plus, mais d'avoir de moins en moins de services publics.
Le président Macron a fait savoir qu'il allait faire des annonces à la Nation mardi, des propositions acceptables, dit l'Élysée. Corollaire, ça sous-entend que les propositions et les mesures précédentes étaient inacceptables.
Pas du tout. Nous sommes aux responsabilités depuis 18 mois. Nous agissons évidemment. Cette colère-là, nous l'avons identifiée pendant notre campagne et bien avant, je dirais même, pendant la rédaction du projet. Nous y répondons depuis 18 mois. Jamais un gouvernement n'a fait autant pour les transports, pour le logement, pour la couverture numérique du territoire.
Je vais me faire l'avocat des Gilets jaunes, ils vont dire
sauf
vous répondez par des taxes.
On ne décrète pas des résultats, les résultats ils arrivent. Et puis il y a cette transition écologique, mais qui est appelée de la part de tous les Français, et les sondages le démontrent. Donc il faut poursuivre cette trajectoire, ne pas dévier du cap. En revanche, il faut davantage expliquer ce que nous faisons pour les Français, pour ces territoires, et puis surtout accompagner et peut-être accélérer certaines mesures de manière à ce que les résultats soit visible le plus rapidement possible.
Merci beaucoup Lauriane Rossi.
Merci à vous.
Pour ces explications, je rappelle que vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine.
Merci.
Europe 1.
Le Parti communiste qui n'en finit pas de dégringoler, le premier parti de France à la Libération, a fait seulement 2,7% aux dernières législatives. Et ceci explique peut-être cela. À l'occasion du 38e congrès, l'ancien premier secrétaire Pierre Laurent a été mis en minorité et remplacé par le député du Nord Fabien Roussel. Qu'est-ce que ça va changer? Réponse de Yann Brossat, figure montante du parti, future tête de liste aux élections européennes après le rappel des titres et la météo.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonne fin de journée à l'écoute d'Europe 1. Vous écoutez Philippe Vandel, c'est votre grand journal du soir. Il est 18h29.
Et le rappel des titres, c'est maintenant avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Journée de tension entre Gilets jaunes et forces de l'ordre à Paris. Des violences se sont déroulées toute la journée sur les Champs-Élysées. Barricades, incendies, la police a fait usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau. À présent, ils ne sont plus que 400 sur l'avenue. Le gouvernement pointe l'ultra-droite. Christophe Castaner accuse Marine Le Pen d'avoir appelé à se mobiliser. La présidente du Rassemblement National de son côté dément et accuse en retour l'exécutif d'attiser les tensions. En région également, les Gilets jaunes étaient mobilisés de façon plus pacifiste avec des opérations escargots ou des barrages filtrants. 23 000 personnes ont été recensées à 15h dans toute la France, 8 000 à Paris. 47 personnes ont été interpellées sur tout le territoire, 30 dans la capitale. Autre manifestation aujourd'hui pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Des marches ont eu lieu dans une cinquantaine de villes. À Paris, 12 000 personnes ont foulé le pavé entre la place de l'Opéra et la République. Le tennis, la finale de la Coupe Davis. Les Français peuvent encore y croire face à la Croatie. Les Bleus ont remporté le double en 4-7, 6-4, 6-4, 3-6, 7-6.
Bravo à eux et merci à vous Sophie. On vous retrouve tout à l'heure à 19h pour votre journal complet.
Europe 1. Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Demain, c'est pépin obligé.
Oui, s'il y a bien un jour où il ne faut pas oublier son parapluie, c'est ce dimanche, car dès les premières heures de la matinée, il va pleuvoir sur la moitié ouest du pays et de manière bien soutenue à la mi-journée sur le centre de la France et de nouveau en Languedoc. Attention aussi au vent qui souffle assez fort en Aquitaine avec des rafales à 90 km/h près du littoral. En milieu d'après-midi, ce mauvais temps touchera les trois quarts du pays, tournant à l'orage en Languedoc et en Provence, épargnant uniquement l'Alsace et les Alpes, où vous profiterez de quelques belles heures ensoleillées. Les températures sont stables, entre 8 au nord et 11 au sud en moyenne.
Merci Valérie Darmon.
Merci Valérie Darmon.
Il est 18h31, vous êtes bien sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Vandel, et on va rester dans la politique.
Bonsoir Yann Brossat.
Bonsoir Philippe Vandel.
Vous êtes conseiller de Paris, maire adjoint chargé du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence. Vous serez également tête de liste du PC pour les élections européennes. Le PC qui n'en finit pas de dégringoler dans les urnes et dans les sondages. Ceci explique peut-être cela à l'occasion de votre 38e congrès qui se tient en ce moment à Ivry-sur-Seine. L'ancien premier secrétaire Pierre Laurent a été mis en minorité et remplacé par le député du Nord Fabien Roussel. Qu'est-ce que ça va changer ?
Ça veut dire que le Parti communiste a envie de faire entendre sa voix dans les mois et les années qui viennent. Et je pense que c'est important, on vit dans un...
Attendez, pardonnez-moi ma question, qu'est-ce que ça a changé? Vous voulez dire qu'avant, il n'avait pas envie de faire entendre sa voix?
En tout cas, il n'y est pas suffisamment parvenu. Et je pense qu'on a besoin que le Parti communiste affirme plus fortement ses valeurs, des valeurs de partage, des valeurs de justice. Et dans une société qui souffre à ce point d'injustice sociale, je pense qu'on a besoin de gens qui soient des partageux. Les communistes sont des partageux. Et je pense que oui, on a besoin de communistes aujourd'hui.
Autre nouveauté, le Parti communiste, c'est l'info du jour, a changé de logo. Il n'est pas facile à décrire, c'est une sorte d'étoile. Certains voient un bourgeon, d'autres voient un point levé, d'autres une cerise. Qu'est-ce que vous y voyez, vous?
En tout cas, si vous y voyez tout ça, je trouve ça plutôt sympa.
Non, alors ma question, c'était pourquoi avoir abandonné la faucille et le marteau? Est-ce que les paysans et les ouvriers, ce n'est plus pour le PC?
Vous savez, nous avons abandonné la faucille et le marteau il y a 25 ans.
Je sais.
Et ça fait 25 ans que le Parti communiste, de fait, n'avait plus de logo identifié. Donc nous avons décidé de nous y mettre. Enfin, je vous rassure, on n'a pas mis 25 ans à trouver ce nouveau logo. Mais en tout cas, je trouve que c'est un beau logo parce que l'étoile, c'est aussi l'espoir. Et puis la feuille, le bourgeon dont vous parlez, c'est l'écologie. Et je crois que ça traduit bien le fait que le Parti communiste cherche à tracer un autre chemin que le capitalisme, que la loi du profit. Et que si on veut faire de l'écologie et faire du social, il faut rompre avec ce système capitaliste qui aujourd'hui nous fait tant de mal.
Alors on sait que les études sociologiques montrent que le vote ouvrier s'est déplacé du Parti communiste vers l'extrême droite. C'est irrémédiable. Et comment vous l'expliquez?
Le vote ouvrier, il se traduit surtout aujourd'hui par du non-vote et par de l'abstention. Et y compris quand on regarde les dernières élections présidentielles. Vous savez, j'étais il n'y a pas très longtemps avec Fabien Roussel, notre futur secrétaire national dans le Nord, dans sa circonscription à Saint-Amand-les-Eaux. J'ai rencontré des gilets jaunes, notamment des ouvriers. Je pense que le Parti communiste a besoin de s'adresser mieux à ces hommes et à ces femmes qui travaillent et qui aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et donc, cette voie-là, c'est au Parti communiste de l'incarner. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit la priorité du Parti communiste dans les années qui viennent. On a besoin que les ouvriers se fassent entendre. Et vous savez que sur la liste que je conduirai aux élections européennes, il y aura très haut sur la liste l'ouvrière qu'on voit dans le film de François Ruffin, Merci Patron. Elle a affronté Bernard Arnault à l'époque et je trouve que ce serait formidable qu'une ouvrière puisse entrer au Parlement européen, là où on a surtout aujourd'hui des lobbyistes et des banquiers.
Si je suis bien informé, elle s'appelle Marie-Hélène Bourlard.
Elle s'appelle Marie-Hélène Bourlard, absolument.
Une grande partie de la contestation populaire s'est déplacée vers les Gilets jaunes. Quelle attitude allez-vous adopter avec ce mouvement? Vous leur dites « rejoignez-nous » ou allez-vous mettre, comme j'ai vu certains dirigeants de la France insoumise, vous-même un gilet jaune?
D'abord, moi, je suis solidaire des gilets jaunes et je comprends tout à fait la colère de milliers de gens qui en ont ras-le-bol, qu'on leur demande à eux, qui ont des petits revenus, de financer la transition énergétique, alors que dans le même temps, par exemple, on ne met pas à contribution les profits des compagnies pétrolières. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on exprime, c'est de la solidarité. Et puis surtout, je pense que le rôle des responsables politiques aujourd'hui, ce n'est pas d'essayer de récupérer le mouvement, ce n'est pas d'aller dire à ces gens qui se mobilisent légitimement « rejoignez-nous », c'est de proposer des solutions. Et je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que le gouvernement dit « on va vous augmenter le prix des carburants, mais derrière, il n'y a aucune solution alternative ». Eh bien, je propose par exemple qu'on baisse le prix des transports en commun. Le gouvernement pourrait tout à fait décider que les transports en commun sont un produit de première nécessité et que donc la TVA sur les transports en commun, elle est non pas de 10%, mais de 5,5% comme tous les autres produits de...
Ça ferait une baisse de 4,5%,
bah oui, mais
si je schématise.
Exactement, mais ce serait déjà pas mal. Autre exemple, le gouvernement continue à organiser la fermeture de tas de petites lignes de train, notamment en zone rurale. Ça n'est pas acceptable non plus. Et moi, je propose un moratoire sur les fermetures de lignes de train.
Et vous savez que si on ne ferme pas les lignes de train, elles sont payées par les impôts, donc par des taxes, donc par les gens.
Oui, mais précisément, est-ce que le gouvernement a eu raison de supprimer l'impôt sur la fortune? Parce que moi, ce que j'entends aussi beaucoup dans la mobilisation des Gilets jaunes, c'est non pas seulement une espèce de ras-le-bol fiscal, mais un ras-le-bol de l'injustice fiscale. Parce qu'en même temps que le gouvernement accable de taxes les familles modestes et les classes moyennes, il a, de fait, supprimé l'impôt sur la fortune. C'est 3,5 milliards d'euros en moins dans le budget de l'État. Moi, je pense que le gouvernement doit revenir sur la suppression de l'impôt sur la fortune et qu'après tout, les gens qui payaient l'impôt sur la fortune pourraient un peu plus contribuer à la transition énergétique.
Et ça suffira?
En tout cas, ça y contribuera. Et je pense que la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est la faute originelle de ce gouvernement. Vous savez que ça représente un cadeau de 33 euros par jour pour des gens qui sont quand même pas seulement des riches, mais des super riches, des gens qui avaient des patrimoines absolument monstrueux, absolument énormes. Et notre société aujourd'hui, elle souffre de ces inégalités, elle souffre de ces injustices-là.
Merci beaucoup Yann Brossat. Je rappelle que vous êtes le futur candidat communiste aux élections européennes. On en reparlera, maire adjoint de la ville
Avec
de Paris.
Avec plaisir.
Europe 1.
Aider les ados à déjouer les pièges des fake news, de la communication de Donald Trump à la propagande de Daesh, pardon, de l'organisation État islamique, c'est le mot d'ordre d'Escape News, le nouveau magazine animé par Thomas Soto et diffusé le samedi sur France 4. On en parle tout de suite après ça.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Deux tranches d'infos, mais pas d'infox. C'est votre grand journal du soir avec vous, Philippe Vandel, et votre invité, Thomas Soto. Il est 18h40.
Bonsoir, Thomas Soto.
Bonsoir, Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste, pour qui ne vous connaîtrait pas, joker du 20h de France 2, co-présentateur de l'émission politique, toujours sur France 2 avec Léa Salamé. Avant de parler de votre actualité, une question. Vous êtes un ancien d'Europe 1. Ouais. Ça fait quoi de découvrir ces nouveaux locaux ?
Eh bien, ça me fait frissonner, je vais vous dire. J'ai fait une petite visite là, de tout ça. Le studio Bellemare est incroyable. On retrouve nos repères parce qu'il y a les vrais noms des studios. Et putain, qu'elle est belle, cette maison, quoi. Voilà.
Vous présentez désormais une nouvelle émission sur France 4, la chaîne spécialisée jeunesse, voire enfants. Ça s'appelle Escape News. C'est quoi le concept ?
Le concept, c'est tout simple. C'est prendre les codes que les enfants connaissent, avec lesquels ils sont à l'aise, autrement dit des escape games, et puis s'en servir pour les aider à apprendre à douter, à avoir un sens critique, à lutter contre les fake news, contre les montages vidéo, contre tout ça. On leur donne, c'est une boîte à outils ludique, donc ils jouent pendant 30 minutes et ensemble, en équipe, ils apprennent à déjouer tous les pièges auxquels ils sont confrontés tous les jours, que ce soit à la télé, à la radio, sur leur téléphone, sur Snapchat, sur Instagram, partout.
D'où vient l'idée ?
De ma petite tête, en fait, avec celle de Jean-Bernard Schmitt. Et c'est ça qui est très marrant, c'est que France 4 nous a permis d'inventer totalement le concept. C'est une émission qui est nouvelle.
Voilà. C'est parti comment ?
Bah, quand j'étais à Europe, il y a quelques années, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, moi, l'éducation des enfants aux médias, la lutte contre les fake news. J'ai présenté des JT pour enfants il y a une vingtaine d'années sur Canal J et sur France 3. Et il y a, je ne sais plus, 3-4 ans, quand j'étais encore à Europe, je suis allé tourner dans une classe à Évry pour voir ce que ça donnait, un petit sujet dans une cantine, une classe de CM2. Et on a fait deux groupes de montage. Un groupe qui racontait la vraie histoire, c'est-à-dire comment s'organise la cantine, le repas, etc. Et l'autre groupe qui, avec les mêmes images, les mêmes rushs, les mêmes interviews, racontait une histoire complètement bidon. Ensuite, on montre ces deux montages aux enfants avec les profs, on en discute, et là, on voit et on leur apprend à déjouer les pièges. Et on s'est demandé, et avec France Télé, on s'est dit comment on pourrait adapter ça en émission. Et voilà, en triturant un peu nos neurones, on est arrivé à Escape News.
Vous savez qu'on a besoin de vous maintenant, même sans être un enfant de CM2, parce qu'avec les gilets jaunes, il y a plein de manières de montrer les images. Vous pouvez montrer que les incidents, que les gens bon enfant, vous pouvez faire dire n'importe quoi aux images.
Ouais, alors c'est plus que sur un autre sujet encore, puisqu'en plus tout ça n'est pas structuré, ça part un peu dans tous les sens, avec toutes sortes de personnalités, toutes sortes de profils. Et je vais vous dire, on avait prévu d'inviter un gilet jaune dans l'émission politique, et on a bien vérifié, on s'est rendu compte qu'il y avait sur sa page Facebook des propos antisémites, des propos anti-islamiques. Et voilà, donc on a fait le tri, on l'a éliminé en quelque sorte.
J'en reviens à l'émission Escape News. Chaque semaine, un thème différent. Mm-hmm. La première était consacrée à Donald Trump et son rapport aux médias
et à
Twitter.
C'est un peu le pape. C'est un peu le pape du fake news.
La seconde émission était consacrée à un thème pas facile. On quitte la papauté, le terrorisme et les attentats du Bataclan. 130 morts, plus de 400 blessés. Mm-hmm. Et ce qui frappe d'entrée de jeu, pour prendre un sujet qui a fait irruption dans le débat, c'est le prénom des candidats. Sarah, Rokia, Zinedine et un blondinet de chez Blondinet, Gabin. On sent que toutes les religions, toutes les couleurs de peau sont représentées. D'abord, je vous dis bravo. Et ensuite, ma question, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'était un choix ?
C'est ni un hasard ni un choix, c'est la société française aujourd'hui. Nous, on va dans les collèges, on discute avec des enfants, on voit ceux qui sont intéressants. On ne leur donne pas le thème à l'avance. Hein. Ils découvrent le thème de l'émission et du jeu au moment de l'enregistrement. Et donc, on les sélectionne en fonction de leur œil vif, de leur intérêt et de leur capacité à raisonner et à jouer.
Voilà. Et donc, le hasard fait que c'est très bien tombé. Il y en avait un de chaque.
C'est pas le hasard, c'est la société qui est comme ça aujourd'hui, monsieur Vandel.
Contrairement à beaucoup de JT, vous ne parlez pas par euphémise, vous n'utilisez pas l'acronyme, mais vous dites État islamique. Même question.
Organisation État islamique, on dit.
Oui. Pourquoi ce choix fort ?
Bah parce que Daesh est un acronyme, comme vous le dites, que ça ne veut rien dire dans l'esprit des enfants et qu'il faut qu'on leur apprenne quels sont les mots, quelles sont les réalités qui se trouvent derrière chaque fait. Et là, c'est l'organisation État islamique, ce qui permet d'expliquer que c'est une organisation terroriste qui a voulu se faire passer pour un État, pour un pays. En fait, tout a un sens. Et tout ça, c'est une pelote de laine et on tire le fil. Et à la fin, quand le fil est à plat, eh ben on a compris, on a avancé en tout cas.
Autre actualité. Vous l'avez dit, l'émission politique, c'était avant-hier jeudi sur France 2. L'invité, c'était Nicolas Hulot. Vous avez cartonné. Mmh. Vous connaissez les chiffres ou pas ?
Je crois qu'on a fait 3,2 millions en prime et que Léa a fait 1,8 million ou 9 en deuxième partie de soirée, ce qui est énorme.
Exactement. C'est le record du prime depuis avril 2017 pour cette émission. C'est beaucoup plus que le dernier numéro avec le Premier ministre Édouard Philippe, 2,080 millions. Vous étiez à ses côtés. de Léa Salamé pour l'interview, mais vous avez surtout réalisé un portrait de Nicolas Hulot. C'était au-dessus de la mer de glace à Chamonix, enfin la glace qu'il en reste, c'était plutôt de la pierre. Comment ça s'est fait ?
Bon, ça s'est fait très simple. On a mis en place une séquence qui s'appelle « Derrière la porte » cette année. Donc, j'avais fait derrière la porte du bureau du Premier ministre pour la première émission de la saison. Là, évidemment, avec Nicolas Hulot, c'était plus compliqué parce qu'il a plus de bureau, en fait, Nicolas Hulot. Et donc, on s'est dit, on va aller dans un endroit où le réchauffement climatique a du sens, a de la visibilité. Et comme on voulait faire une émission utile, c'était vraiment notre ligne éditoriale, on s'est dit, on va aller montrer les choses là où elles sont visibles.
Je veux dire, le sens de ma question, c'est qu'on voyait Nicolas Hulot avec un sac à dos, en chaussures de randonnée, avec un jogging pas de def, je savais même pas que ça existait, à peine coiffé.
Ah, c'était pas un jogging pas de def, c'était un pantalon de ski en fait.
Je me suis dit, est-ce que c'était votre choix ou est-ce que c'est lui qui voulait désormais être présenté comme ceci ?
On avait cette volonté commune d'aller dans un endroit où les effets du dérèglement climatique étaient visibles. Donc on en a évoqué plusieurs et moi je ne connaissais pas la mer de glace, donc je lui ai proposé et il a dit banco.
Je reviens à l'interview d'Hulot, le moment le plus fort, c'est quand quelqu'un lui a demandé expliquez-moi les avantages de la taxe carbone comme si j'étais un enfant de 5 ans. Mmh. Il était incapable de répondre avec des mots simples et on revient au JTJ, le journal des jeunes que vous faisiez. Mmh. C'est très compliqué d'expliquer avec
c'est
des
très
mots
compliqué,
très simples.
C'est très compliqué. Moi, j'avais un rédacteur en chef à l'époque qui me disait, alors j'ai pas 5 ans, il me disait, j'ai 8 ans, je comprends pas quand je lui montrais mes textes. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir en logiciel quand on fait ce métier. Moi, j'essaye toujours d'y penser quand j'écris un lancement, que ce soit pour le 20h, que ce soit pour une émission, que ce soit pour une question pour l'émission politique. J'essaye de penser à ça parce que notre job, c'est de parler au plus grand nombre et donc de donner des clés au plus grand nombre. Après, cette discussion, c'était avec un gilet jaune qui était un peu ironique et il avait face à lui un Nicolas Hulot qui, à ce moment-là, était, je crois, d'une sincérité totale et même un peu énervé.
Vous qui débusquez les fake news, j'aurais bien démêlé le vrai du faux vous concernant.
Oula.
À propos de votre duo dans l'émission politique, vous avez dit à TV Mag le 12 octobre « Je ne connaissais pas Léa et c'est une vraie rencontre ». Or, vous avez dit à Ouest France le 9 août « Avec Léa, nous nous sommes souvent croisés dans les couloirs de France Télé et on se disait qu'il faudrait qu'un jour on travaille ensemble. » Donc il y a une des deux fois où vous avez menti.
Pas du tout, parce qu'on se croise, on ne se connaît pas. Pour se connaître, il faut discuter, il faut déjeuner, il faut travailler ensemble. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître et on a appris à se connaître depuis la rentrée. Et vraiment, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire, si c'est le terme qu'il faut employer, mais moi, ce que j'aime bien avec Léa, c'est qu'on se marre bien. On travaille beaucoup et on se marre bien.
Merci beaucoup, Thomas Soto, d'avoir été avec nous. Je rappelle, Escape News, c'est chaque samedi sur France 4.
C'est à 18h15 et c'est en replay sur le site France 4, évidemment, parce qu'on sait que les jeunes vont de moins en moins à la télé, donc ils aillent sur leurs ordinateurs regarder l'émission.
Et puis, pour Noël et le jour de l'an, vous serez aux commandes du 20h de France 2.
Absolument.
Europe 1.
Dans un instant, le replay télé d'Eva Rock qui vous propose de voir ou de revoir 3 documentaires passionnants. Et puis c'est bientôt l'heure de l'apéro, je ne vous apprends rien. Olivier Streff est le chef du relais de Sceaux à Beaune. Il va nous donner toutes les astuces pour concocter un sablé parmesan châtaigne. Je ne vous dis que ça.
4,99€ par mois. Détails sur sage.fr.
Sage!
À 8h49, une place est faite aux infomédias dans votre grand journal du soir et on en parle avec vous Philippe Vandel et Eva Rock.
Bonsoir Eva Rock.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors séance de rattrapage comme chaque semaine avec vous, avec la sélection de 3 programmes diffusés à la télé cette semaine et qui méritent d'être vus ou revus en replay selon vous. On peut les voir sur les sites internet des chaînes et cette semaine Eva, vous avez retenu 3 documentaires.
Oui Philippe, mais alors dans 3 genres totalement différents. Mardi soir, France 2, dans la case infrarouge qui est réservée justement aux documentaires, proposait un film très fort intitulé « Enfance abusée ». 8 victimes d'abus sexuels alors qu'elles n'étaient que des enfants ont accepté de témoigner devant la caméra d'Éric Guéret. Alors pas de pathos dans ce documentaire, mais des mots qui claquent, des phrases qui effraient souvent, qui provoquent de l'émotion aussi. Et parmi ces personnes, Andréa Bescon, la réalisatrice du film « Chatouille », dans lequel elle raconte d'ailleurs les viols qu'elle a subis durant son enfance par un des meilleurs amis de ses parents, un homme très très gentil.
C'était vraiment très gentil avec moi, extrêmement gentil, extrêmement doux. Et le jour où il s'est mis à côté de moi, à côté de ce lit, finalement, d'accord. Enfin, c'est aussi simple que ça et aussi dramatique que ça, c'est ok, ça va vite.
D'autres victimes reviennent de la même façon sur la gentillesse de leur bourreau, de quoi renforcer, vous savez, ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir su dire non. Le documentaire revient aussi sur le silence que s'imposent les victimes, cette incapacité à raconter leur histoire de peur de ne pas être crue. À ce sujet, je voudrais rappeler qu'il y a un numéro de téléphone, c'est le 119, c'est une plateforme pour demander de l'aide si vous êtes victime d'un abus sexuel ou pour déclarer une situation dont vous êtes témoin. Quant à cet excellent documentaire d'utilité publique, il est à revoir sur France.tv.
Alors beaucoup plus joyeux, quoique
oui.
Vous parlez de science, un documentaire qui vous a marqué cette semaine.
Exactement, c'était jeudi soir sur France 5, ça s'appelle « Les cobayes du cosmos, confidences d'astronautes ». C'est quoi un vol spatial? Comment on se prépare? Comment on vit là-haut? Comment fait-on pour supporter la promiscuité, l'affaiblissement du corps, l'absence de sexualité? Et oui, les spationautes ont accepté de répondre à toutes ces questions et ils décrivent l'envers du décor, Philippe. Alors la Terre vue d'en haut, c'est très beau, mais il faut la mériter, notamment lors des premières heures. Vous savez, quand les corps découvrent le phénomène d'apesanteur, comme le racontent deux spationautes italiens et russes.
Pendant les 3 ou 4 premiers jours, je me déplaçais toujours avec un sac dans la poche, au cas où j'aurais envie de vomir.
Après 4 jours de vol, j'ai regretté d'être devenu cosmonaute.
Un film qui prouve qu'on peut sourire en regardant un documentaire scientifique, c'est passionnant. Et surtout, vous allez comprendre que pour un voyage vers Mars, c'est pas franchement gagné. C'est à revoir sur France.tv.
Vers Mars, si je me souviens bien, ça dure 9 mois l'aller et pareil le retour.
Exactement, avec des corps qui ne pourront pas supporter apparemment.
Et pour finir Eva, encore un documentaire, l'avait dit, mais plus léger.
Oui, c'était diffusé hier soir sur France 3, un très beau portrait de Muriel Robin intitulé « Oser être soi ». Alors les premières secondes, j'ai eu peur Philippe, parce que le réalisateur Nicolas Perge a demandé à Muriel Robin un exercice périlleux d'aller voir des proches, des gens qui ont compté dans sa carrière, pour leur demander ce qu'ils pensaient d'elle. Ouais. Donc ma crainte, c'était de devoir regarder une longue biographie un peu hagiographique. Et pourtant, cette crainte a été vite balayée. Alors certes, les amis sont sympas, Michel Bouquet qui a été son professeur au conservatoire est plutôt élogieux, pas trop finalement, mais assez élogieux quand même. Il n'empêche que le portrait est réussi parce que Muriel Robin, elle ne s'épargne pas. Et comme à son habitude, elle fait preuve d'une grande honnêteté vis-à-vis d'elle-même. Ses doutes, ses déceptions, la perception de la scène dont elle pourrait se passer. En revanche, ses rôles qu'elle espère encore avoir. Elle dit tout et son face-à-face avec Pierre Palmade, qui a été son premier co-auteur et l'ami de toujours, est délicieux, notamment quand il est question de l'origine du sketch « Ne me quitte pas ».«
Ne me quitte pas » de Jacques Brel, je me souviens, on était dans une... dans un Burger King.
Exact, je m'en souviens très très bien.
Et on entend Jacques Brel qui chante dans un Burger King.
Et on pose notre plateau.
Et toi, tu commences à commenter « Ne me quitte pas ». Pour me faire rire, j'ai dit « Mais non, mais pas que moi, tu vas faire rire tout le monde avec ça ».
Oui, parce que moi, je n'ai pas du tout conscience. Pas du tout, je n'ai pas ce regard. Et c'est vrai que c'est parce que tu m'as regardé, écouté, qu'il s'est passé cette alchimie, quoi.
Ah oui, non, on s'y attendait pas à celle-là.
Oui, portrait réussi, donc avec une réflexion extrêmement intéressante en plus sur le rire et sur le métier de comédien. Et c'est à revoir toujours sur le site France.tv.
Et nous, on vous retrouve samedi prochain.
À samedi.
Merci Eva, bonne semaine.
Et dans un petit peu plus de 5 minutes, il sera 19h. Philippe Bandel, comme chaque samedi, on fait saliver les auditeurs d'Europe 1 avec la planche apéro.
Bonsoir Olivier Streff.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes le cuisinier, le chef du relais de Sceaux, c'est à Beaune.
Tout à fait.
Magnifique région viticole, peut-être même la plus belle du monde, mais là ça n'engage que moi.
Oui, ça nous engage aussi, donc on est assez d'accord.
Alors tiens, justement, qui y aura-t-il dans votre planche apéro? Et une fois n'est pas coutume, ça se boit avec quoi?
Je vais rester quand même sur la Bourgogne. Hein. Je suis chauvin, puis de par ma belle famille, je suis encore beaucoup plus chauvin. Donc
je vais vous dire, vous nous auriez dit l'inverse, on aurait été déçus.
Oui, bon, j'aurais bien voulu, mais sinon je vais me faire taper dessus. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que sur la Bourgogne, on a tout ce qu'il faut pour faire un apéritif. Moi, c'est vrai que sur Beaune, on a des choses super intéressantes, mais un Beaune blanc, là, ça fera super bien.
Je vais vous dire, je ne savais même pas si ça existait. Je pensais que c'était que des rouges, les Beaunes.
Ah ben non. Il y a un Beaune blanc de chez Jean-Claude Rateau, là, qui est absolument extraordinaire. Puis bon, en plus, il est en bio depuis presque la nuit des temps, donc c'est extraordinaire.
À consommer avec modération, comme tous les râteaux, évidemment. Alors, avec
tout
ça, avec ça, on grignote quoi?
Avec ça, on va grignoter un truc très simple, mais que j'aime beaucoup et qu'on peut préparer à l'avance, c'est un petit sablé parmesan châtaigne. Donc on est un peu dans le côté un peu sucré-salé.
Ouais.
Donc je trouve ça hyper intéressant.
Ça se fait comment ?
Très convivial. Très simple. On prend du beurre de micelle, là on va du côté un peu de la Bretagne et puis on va revenir vers chez nous. On prend du beurre de micelle avec du sucre glace. Mmh. Donc chose simple, 100 g de beurre, 30 g de sucre glace, le beurre pommade et on mélange les deux bien mélangés pour avoir ce côté un peu crémeux. Une fois que les deux sont mélangés, on va rajouter 20 g de lait, 1 jaune d'œuf, 15 g de parmesan, 60 g de farine de châtaigne, 60 g de farine et 3 g de levure. Et au dernier moment, on rajoute à peu près 15 g d'éclat de châtaigne. Alors, soit les châtaignes, vous avez retiré du feu, ou on va retirer les marrons, bien sûr. Et puis, on mélange tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, on étale ça entre deux feuilles de papier cuisson. On laisse prendre au réfrigérateur le temps que le beurre durcisse. En porte-piécé, on fait des petits ronds. On cale ça sur une plaque de cuisson et à four chaud, bien évidemment, à 180 degrés. 5 minutes et c'est prêt. On attend que ça refroidisse un petit peu, bien évidemment, parce que ça reste tout mou quand ça sort du four, mais ça durcit. Et on a ce côté sablé qui est en bouche, qui est absolument génial, avec les petits éclats de châtaigne qui vont ramener un petit peu de croquant. Et on est dans une super texture.
Magnifique. Merci beaucoup, Olivier Streff. Je rappelle que vous tenez le relais de Sceaux. C'est à Beaune. On l'a dit que c'était à Beaune ? Oui, on l'a dit.
Oui, c'est à Beaune. Oui.
Mais oui, on l'a dit. C'était une blague. Bonne soirée, bon samedi,
merci,
bon
Philippe.
Week-end.
Merci, au revoir Philippe.
Europe 1.
Et bon appétit. Et dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud. A tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h. Votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Les gilets jaunes sont depuis ce matin sur les Champs-Élysées un périmètre pourtant interdit aux manifestations. La police est-elle débordée ou au contraire est-ce le bon moyen de protéger l'Élysée et les sites sensibles ? Qui sont les casseurs ? On en parle avec Stanislas Godon, il est secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Et puis à 19h30, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus calme. La demi-heure culturelle de ce 18-20, Nicolas Caro, Monsieur Livre, une nouvelle collection chez Gallimard, Mathieu Charrier, Monsieur Cinéma et le retour des frères Cohen. Mais ce n'est pas au cinéma, c'est sur Netflix. Et enfin Vanessa Zah, Mademoiselle Bed and Breakfast, qui est allé dans le pays de notre invité, Joël Dicker, la Suisse.
Et que vous soyez en Suisse, à l'autre bout du monde ou en France, il suffit d'avoir un peu de réseau, d'un clavier, et vous pouvez réagir à l'actualité sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur europe1.fr. Bon week-end à tous. Il est 19h, bienvenue à vous. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Une nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes à Paris. Barricades, incendies, la mobilisation a été marquée par les violences sur les Champs-Élysées. Christophe Castaner pointe la responsabilité de l'ultra-droite dans ces débordements. L'opposition, de son côté, accuse le gouvernement de vouloir décrédibiliser le mouvement. En région, des rassemblements également. Ils ont notamment visé les centres commerciaux comme dans le Pas-de-Calais où nous retrouverons notre correspondant. Et puis, autre manifestation aujourd'hui, les féministes ont défilé pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles.
Europe 1.
Une nouvelle journée de colère contre la hausse des prix du carburant et la vie chère.
23 000 gilets jaunes se sont mobilisés dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. 8e journée de protestation en forte baisse à Paris. La journée a tourné à l'affrontement. Tous les troubles se sont concentrés sur les Champs-Élysées. Pierre Herbulot, vous vous trouvez sur place. Quelle est à présent la situation ?
Écoutez Sophie, la situation est encore assez chaotique à l'heure où l'on se parle parce que si le nombre de manifestants a très largement diminué depuis ce midi, les affrontements ont toujours bien lieu vers le bas des Champs-Élysées. Les forces de l'ordre multiplient les lancers de grenades lacrymogènes pour tenter de disperser la foule alors que de nouvelles barricades sont montées puis enflammées par les manifestants. Sur le côté, Nathalie, gilet jaune sur le dos, regarde avec tristesse la manifestation qui a dégénéré.
Catastrophique. Pas du tout à l'image du mouvement qui, ce pourquoi les gilets jaunes se sont mobilisés. Pas du tout. Ça discrédite. Je suis hyper déçue. Samedi, j'étais déjà dans le mouvement. Aujourd'hui, je suis dans le mouvement. Je suis spectatrice et franchement, j'ai les boules.
Au contraire, cette violence est nécessaire pour Jacques qui compte bien poursuivre les blocages tant que ce sera possible. Lui relativise les événements.
C'est une belle réussite avec peu de moyens. On a pris des gaz. Ça n'a pas arrêté. Un peu de violence du côté des CRS. Hein. On a pris des barricades pour défendre un peu les positions.
C'est nécessaire de passer
nécessaire.
Par là.
Ah oui, il y a les camions à eau, il y a du monde quand même en face. Hein. Et les gens, ils n'avaient rien dans les mains. Hein. Après, ça a un petit peu plus chauffé parce que après les arrosages et les lacrymogènes, je crois qu'il y a eu un ras-le-bol aussi. Hein.
Depuis un petit peu plus d'une heure, une partie des affrontements s'est déplacée derrière les Champs-Élysées au niveau de l'avenue de la Grande Armée, avec là encore de nombreuses barricades. Mais donc à l'heure où l'on parle, 19h, la situation est encore très chaotique sur les Champs-Élysées avec des affrontements qui se poursuivent.
Merci Pierre Herbulot sur les Champs-Élysées pour Europe 1.
51 personnes ont été interpellées sur tout le territoire et 34 à Paris.
Oui, 30 personnes sont également en garde à vue dans la capitale. On vient de l'entendre, la situation a été très tendue sur les Champs-Élysées. On a vu des images très impressionnantes avec des barricades en feu, la police jetant des grenades lacrymogènes sur les manifestants ou encore utilisant les canons à eau pour les disperser. Salomé Legrand, comment les policiers ont géré cette journée ?
Eh bien, la priorité dans ces cas-là, Sophie, reste de limiter au maximum le nombre de blessés, tant parmi les gilets jaunes que parmi les forces de l'ordre et bien sûr aussi parmi les badauds, a fortiori sur les Champs-Élysées où, je le rappelle, aucune manifestation n'est jamais autorisée, même syndicale classique. C'est pour cela qu'on a vu depuis 10 heures ce matin les CRS limiter les charges, privilégier les gaz lacrymogènes et la lance à eau face à ces manifestants déterminés qui ont décelé des pavés et envoyé ces projectiles sur les policiers. Alors, qui et combien étaient-ils ? 5000 sur les champs en fin de matinée, selon le ministère de l'Intérieur, 400 il y a quelques minutes. D'après nos informations, les services spécialisés n'ont pas repéré de militants d'extrême gauche parmi eux. En revanche, il y en avait à peu près 200 d'extrême droite, mais pas vraiment leaders, nous dit-on. Les dégradations sont le fait de casseurs et de gilets jaunes très énervés, vindicatifs, qui s'étaient équipés. Et c'est finalement l'image que l'on va retenir. Alors qu'en dehors de ces Champs-Élysées, ailleurs dans Paris et dans toute la France, il y a eu très peu de débordements et une mobilisation en baisse.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Et à noter que Stanislas Godon, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, sera mon invité juste après ce journal.
Alors Salomé Legrand vient de le dire, si des membres de l'extrême droite étaient présents, ils n'étaient pas leaders des violences. À la mi-journée, Christophe Castaner a accusé Marine Le Pen d'avoir appelé, selon ses propres mots, les séditieux de l'ultra-droite à manifester. Ce dont s'est défendue la présidente du Rassemblement National qui estime que ses propos visent à faire diversion.
Je pense que c'est un des moyens qu'il utilise pour tenter de dévier la réalité de ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire à nouveau une très grande mobilisation des Françaises et des Français qui sont en pleine souffrance, qui vivent dans une inquiétude quotidienne. Ils se sentent méprisés parce qu'ils se sentent humiliés par le gouvernement et je pense que c'est ça le signal qui doit être entendu et qui doit être entendu par le gouvernement car il doit y répondre. Or, pour l'instant, il y répond par une fermeté pour le moins inhabituelle hein, par rapport à des revendications antérieures. Il y répond par des menaces, il y répond par la diabolisation. Et je pense que ça n'est évidemment pas susceptible de calmer tout le monde.
Marine Le Pen répondait à Virginie Riva pour Europe 1. Le Parti communiste juge également légitime la colère des Français et regrette que le gouvernement diabolise la mobilisation. Écoutez Adrien Quatennens, député communiste.
Christophe Castaner pense que c'est en minorisant la mobilisation ou en l'enfermant dans quelque chose qu'elle n'est pas, à savoir une mobilisation d'extrême droite, évidemment elle ne l'est pas. Moi j'ai recueilli bon nombre de témoignages dans les manifestations auxquelles j'ai pu participer de gens qui nous disent au contraire heureusement que vous êtes là aussi, que vous êtes présents et sans vous distinguer, parce que nous on ne veut pas retrouver une issue qui soit un deuxième tour comme celui qu'on a connu en 2017 entre Macron et Le Pen. Donc c'est tout sauf une mobilisation d'extrême droite. Bien sûr vous avez ça et là l'extrême droite qui cherche à faire de la récupération politique, mais M. Castaner aurait tort d'utiliser cette information qui n'en est pas une pour faire croire que la mobilisation est cela. Non, c'est quelque chose de très puissant. Les deux principaux mots d'ordre, c'est Macron rend l'ISF et Macron démission. On n'a jamais vu ça dans la Ve République. C'est extrêmement ample ce qui est en train de se passer et le pouvoir aurait tort de ne pas en prendre la mesure.
Adrien Quatennens, qui est député de la France Insoumise.
En région, les gilets jaunes étaient mobilisés, mais de façon plus pacifiste.
23 000 gilets jaunes ont été recensés dans toute la France à 15 heures, contre 244 000 la semaine dernière à la même heure, avec des barrages filtrants, des opérations escargots ou encore des opérations péage gratuit. Dans le Pas-de-Calais, la mobilisation s'est concentrée sur les centres commerciaux, comme à Liévin, où c'était compliqué de faire ses courses aujourd'hui, Kevin Tuillier.
Ah oui, c'est un peu le parcours du combattant hein, pour faire ses courses. Ici à Carrefour, 100 à 150 gilets jaunes filtrent les entrées du parking. Du coup, l'enseigne a préféré pour la quatrième fois cette semaine baisser son grand rideau de fer. Mais les clients peuvent tout de même rentrer en passant par une petite issue de secours gardée par deux vigiles. De quoi exaspérer cette lançoise.
Pour nous, les consommateurs, ça commence à être embêtant parce qu'on ne peut jamais faire nos courses. On travaille toute la semaine, samedi on est bloqué. On se rend compte qu'on n'est pas pénalisé par tout le monde. Par l'État, par les gilets jaunes. Et je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Je pense qu'il faut trouver d'autres alternatives. alternative.
Un filtrage qui a des conséquences aussi pour les enseignes. Du centre commercial, une responsable me disait avoir enregistré une baisse de 75% de la fréquentation. Aujourd'hui, un problème dont ont conscience les Gilets jaunes. Mais Mathieu souhaite maintenir la pression.
On peut comprendre. Et voilà. Après, nous, on leur a pas demandé de fermer le magasin. C'est eux qui ont fermé de leur propre gré. Nous, le but, c'était de bloquer l'économie française. Donc, moins les gens achèteront, moins d'argent rentrera dans les caisses de l'État. Le combat, de toute façon, continuera encore le temps qu'il n'y a pas de réponse du gouvernement.
Et pour essayer de rattraper cette journée perdue, certaines enseignes ont prévu d'ouvrir demain après-midi.
Kevin Thuillier, correspondant d'Europe 1 dans le Pas-de-Calais.
Europe 1.
Autre mobilisation aujourd'hui, une manifestation contre les violences faites aux femmes. Europe 1 y était. On vous en parle dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h10, la suite du journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Les Gilets jaunes n'étaient pas les seuls à se mobiliser aujourd'hui. Des femmes et aussi des hommes ont également fait entendre leur voix.
Oui, pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Des défilés ont eu lieu dans une cinquantaine de villes à travers le pays. Pauline Jacquot, vous étiez présente dans la manifestation parisienne qui a rassemblé 12 000 personnes selon la place Beauvau. Un an après la vague MeToo, la jeune génération était très présente.
Oui, des milliers de jeunes qui marchaient entre la place de l'Opéra et de la République. Public, hashtag nous toutes contre les violences faites aux femmes, ces femmes nombreuses, beaucoup entre 20 et 30 ans, des femmes dont la parole s'est libérée, affirme Élise, des femmes qui ne veulent plus se taire après MeToo, après surtout les multiples témoignages entendus.
Les jeunes femmes se rendent compte qu'en fait, voilà, être féministe, c'est pas un gros mot, c'est hyper important, que c'est pas du tout être contre les hommes, mais que c'est juste vouloir vivre dans un monde un peu plus égalitaire, et qu'elles se sont peut-être rendues compte avec MeToo qu'en fait, le monde n'était pas si égalitaire que ça, et qu'il fallait qu'on change et qu'on le fasse avancer. Donc je trouve ça assez positif de voir des très jeunes femmes.
Des jeunes femmes et des jeunes hommes. Beaucoup de femmes dans le cortège me l'ont dit. C'est la première fois qu'on voit autant d'hommes dans ce type de manifestation. Bruno a une petite fille de 7 ans et c'est pour elle qu'il descend pour la première fois dans la rue pour dire non aux violences envers les femmes.
Que ma fille grandisse dans un environnement où elle est d'abord un être humain et pas un objet sexuel. C'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle est moins capable. Et ma fille, elle me dit des fois qu'elle est contente de la manière dont ses parents l'ont élevée. Elle arrive à se sentir légitime à des endroits où elle sent que le regard extérieur est surprise qu'elle soit. Mais ça montre qu'il y a du progrès à faire dans la société entière, quoi.
C'est notre combat, m'ont dit beaucoup de personnes aujourd'hui, que l'on soit homme ou femme. C'est notre génération qui va pouvoir changer les choses.
Pauline Jacquot. Et puis également dans l'actualité, les négociations sur le Brexit qui semblent sur la bonne voie. Madrid annonce un compromis sur l'avenir de Gibraltar avec Londres. L'Espagne lève donc son veto et votera demain l'accord de divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne lors d'un sommet crucial.
C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Demain, le ciel devrait se couvrir, mais quasiment partout.
Carrément, et d'ailleurs demain, il fait gris et pluvieux partout, sauf entre les Alpes du Sud et l'Alsace, où le ciel sera lumineux le matin, mais deviendra de plus en plus voilé et nuageux l'après-midi. Autour du golfe du Lion, le temps redevient instable après l'accalmie d'aujourd'hui, avec des averses localement orageuses près des côtes, notamment entre le Languedoc et le Var. Et puis en fin de journée, la tramontane qui va avoisiner tout de même les 90 km/h en pointe sur le Roussillon. Il neigera aussi de nouveau sur les Pyrénées et le Massif central à partir de 1200 mètres d'altitude. Demain matin, les températures oscilleront entre 2 et 8 degrés jusqu'à 13 près de la Méditerranée. Et l'après-midi, il fera entre 6 et 13 du nord au sud jusqu'à 18 sur la Côte d'Azur.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Et le journal des sports, c'est avec vous Axel May. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Avant de revenir sur le double de la finale de Coupe Davis, rugby, après presque un mois passé ensemble, l'équipe de France achève ce soir sa tournée de novembre.
Une tournée qui pour l'instant se résume ainsi. Défaite dans le temps additionnel contre l'Afrique du Sud il y a 2 semaines. Une solide victoire contre l'Argentine samedi dernier. Et ce soir, ultime test match contre les Fidji. Simon Rubin, un match qui débutera dans un peu moins de 2 heures dans une ambiance singulière.
Oui, ce soir, on risque d'assister à un match un peu spécial dans ce Stade de France à moitié vide face aux Fidji contre lesquels les Bleus n'ont jamais perdu. Donc dit comme ça, c'est vrai que ça fait pas rêver. Alors pourtant, les Bleus, ils vont devoir se mobiliser parce qu'ils se doivent de gagner, d'enchaîner un deuxième succès de suite. Côté français ce soir, hein, d'ailleurs Jacques Brunel confirme une volonté de continuité. Deux changements seulement dans le 15 de France avec les titularisations de Benjamin Fall et Rabah Slimani. Mais voilà, vraiment, ce soir, la priorité, c'est la victoire, la confiance pour arriver sur le 6 Nations 2019 avec un petit peu plus de certitude.
Et dans les autres test match du jour, l'Angleterre a dominé l'Australie 37 à 18.
Et puis comme promis, tennis, après le double, la France n'est plus menée que 2 à 1, c'est ce qu'on appelle un sursis.
Oui, un sursis pour l'instant.
Ou pas,
on verra demain.
On saura demain.
La paire Mahut-Herbert s'est fait peur, hein. Elle a dû batailler plus de 3h30 pour s'imposer face aux Croates en 4-7, 6-4, 6-4, 3-6, 7-6. Et avant les deux derniers simples demain, Yannick Noah n'a pu s'empêcher une nouvelle fois de parler avec nostalgie de la Coupe Davis, dont c'est la dernière finale dans sa configuration actuelle.
Un match comme ça, ils n'auront plus jamais ça de leur vie. C'est magnifique. Une atmosphère incroyable. Ils gagnent. C'est extraordinaire. Voilà, c'est précieux. Et on va essayer de vivre un moment fort demain.
Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Yannick Noah, au micro les envoyés spéciaux d'Europe 1 à Lille, Corinne Boulou et Christophe Lamar.
Et à la fin, c'est le PSG qui gagne. Évidemment, c'est du foot.
Et il s'agit du championnat de France. Hein, parce qu'en Coupe d'Europe, c'est un peu moins vrai.
Ils font moins les malins.
C'est donc la 14e journée de Ligue 1. Et le PSG, Julien Froment, vient de battre Toulouse.
Oui, service minimum, mais efficacité maximum pour le Paris Saint-Germain. Il peut encore une fois remercier Edinson Cavani, unique buteur cet après-midi à la 9e minute de jeu grâce à un bel enchaînement. Le PSG signe donc sa 14e victoire d'affilée et avec 42 points bien valide son maintien en Ligue 1. Ce match a surtout permis de reposer les deux convalescents, Neymar et Kylian Mbappé, hein, qui ont assisté à la rencontre depuis les tribunes. Pas de bobos, des joueurs à l'économie. Paris peut désormais se tourner tranquillement vers le match décisif de mercredi prochain en Ligue des Champions contre Liverpool.
Julien Froment et des 20h multiplex à suivre dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau, notamment un derby de l'Ouest, on aime bien appeler ça les derbies,
oui.
Nantes face à Angers. Enfin, c'est le match qui déchaîne les passions en Argentine. Finale retour de la Copa Libertadores, c'est la Ligue des Champions sud-américaine. Deux semaines après un nul de partout, les deux clubs rivaux de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors, se retrouvent tout à l'heure. L'ancien attaquant chilien de River Plate, Marcelo Salas, résume l'ambiance. En Argentine, on vit le football comme nulle part ailleurs. Celui qui perd ce soir portera cette défaite comme une croix toute sa vie, c'est dit. Hein.
Voilà, je retiens le mot nulle part ailleurs. C'était le journal des sports. Merci beaucoup, Axel.
Europe 1.
C'était le studio où jamais. Les gilets jaunes sont depuis ce matin sur les Champs-Élysées, un périmètre pourtant interdit aux manifestations. La police est-elle débordée ou au contraire, est-ce le bon moyen de protéger l'Élysée et les sites sensibles? Qui sont les casseurs? On en parle avec Stanislas Godon, il est secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. A tout de suite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Europe 19h19, vous écoutez Philippe Vandel jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit avec les gilets jaunes, Philippe.
Oui, ils sont depuis ce matin dans toute la France. Le plus spectaculaire, ils sont également sur les Champs-Élysées, un périmètre pourtant interdit aux manifestations. Bonsoir Stanislas Godon.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. D'abord, comment avez-vous vécu cette journée de manifestation? Quel retour avez-vous eu de vos collègues?
Alors tout d'abord, c'était une journée intense puisque ça a commencé ce matin très tôt et les débordements ont commencé très tôt. Alors effectivement, nous, la crainte qu'on a, c'est évidemment qu'on ait des blessés dans nos rangs parce que c'est souvent le cas, il faut le rappeler. Dernière manif loi travail, on avait 600 blessés en l'espace de 3 mois. C'est vous dire à quel point pour nous c'est inadmissible. Donc nous, on a suivi de très près nos collègues qui ont tenu bon, qui ont répondu présent, qui ont empêché effectivement les manifestants ou les pseudo-manifestants, parce qu'il y avait un peu de tout aujourd'hui. On a vu des gilets jaunes, on a vu des black blocs déguisés en gilets jaunes.
Ah,
on a
justement vu, vous en parlez de la sociologie, voilà. C'est une bonne question que vous soulevez là.
Oui, parce que évidemment ils se sont fait infiltrer. Et cette manif qui n'était pas déclarée d'ailleurs, il faut le dire, et c'est bien ça le problème, parce que quand la manifestation est déclarée en préfecture, on l'encadre, on la sécurise, et puis on en assure le début et la fin, jusqu'à la dispersion, évidemment. Donc, c'est vous dire à quel point c'était compliqué aujourd'hui, parce qu'il y avait des mouvements qui partaient un peu de tous les côtés, qui arrivaient de tous les côtés, mais les collègues ont tenu bon, et il faut quand même saluer que, encore une fois de plus, ils ont tenu l'ordre public sur la plaque parisienne.
Justement, je m'adresse aux techniciens que vous êtes. On a vu sur les chaînes d'info la police qui semblait débordée sur les Champs-Élysées. Était-elle réellement débordée ou au contraire, est-ce le meilleur moyen de protéger l'Élysée et les sites sensibles comme une sorte de soupape de sécurité?
On a assisté en fait aux techniques de maintien de l'ordre, tout ce qu'il y a de plus réglementaire et de ce qui est appris, notamment en formation. C'est-à-dire qu'ils ont tenu bon le barrage en bas des Champs, le rond-point des Champs notamment, pour empêcher l'accès à la Concorde, puisque la Concorde, c'est un site extrêmement sensible, puisque ça donne accès à l'Élysée, l'ambassade des États-Unis notamment.
Oui.
Donc, ils ont tenu bon. Il y a eu des tentatives de faire plier le barrage, évidemment. Ils ont répondu avec des grenades lacrymogènes. D'ailleurs, au passage, je vous dis, on est arrivé en fin de stock en fin de journée.
C'est pas vrai.
Si, si, bien sûr. Oui, on est arrivé en fin de stock.
Il faut surtout pas dire ça.
Ah, mais si, je vous le dis.
Parce que maintenant, les casseurs savent qu'il n'y en a plus pour ce soir.
Non, mais le stock va être renouvelé pour demain, bien sûr.
Oui, mais enfin, il y a la
mais
nuit.
Ce que je veux dire, c'est que les il faut savoir que les grenades, elles sont réapprovisionnées. Elles ont réapprovisionné plusieurs fois dans la journée, d'ailleurs. Mais ce soir, certaines unités étaient en rupture de stock. Il faut le savoir. C'est vous dire aussi. Ça, c'est le deuxième sujet. C'est que lorsque le ministre de l'Intérieur, lorsque le préfet de police, lorsque les pouvoirs publics vont dire que les forces de l'ordre ont bien travaillé, après, il y a le bilan. Et puis après, il y a ce que l'on fait pour nos collègues. Parce que notamment, il y a beaucoup de sujets. Il y a par exemple une loi sur les violences dans les manifestations.
Oui.
J'espère que celle-là sera votée, par exemple.
Alors, avant ça, il est théoriquement interdit de manifester avec le visage masqué. Or, on a vu des dizaines et des dizaines de personnes dans cette tenue. Pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas? Là encore, je m'adresse aux techniciens que vous êtes. Parce qu'on manque de moyens ou au contraire, pour ne pas envenimer la situation?
Alors, il y a deux choses. D'abord, la première, c'est que le visage dissimulé, c'est interdit, mais c'est une contravention à l'heure actuelle. C'est pour ça que je vous parlais de la loi, parce que la loi va instaurer comme quoi le visage dissimulé dans un rassemblement est un délit.
Ça change rien si on n'a pas les moyens de les arrêter.
Ça change, si, beaucoup de choses.
Expliquez.
Parce que lorsqu'on est dans le terme délictuel ouvre... Je dirais le fait qu'on est passible d'une sanction, beaucoup plus sévère. Ça, c'est le premier point. Et puis après, quand on est dans le cadre d'une manifestation non déclarée, c'est un attroupement. Et là, la peine s'aggrave. Ce que je veux dire, c'est que, d'autre part, les effectifs de police ne sont pas extensibles. Il y avait un nombre extrêmement important de forces mobiles qui étaient déployées sur la plaque parisienne et sur le territoire national. Parce qu'on oublie de le dire, ça. C'est qu'il fallait aussi sécuriser tous les barrages, en province notamment, et la sécurité publique a été mise à contribution. Souvent d'ailleurs, sans protection. C'est pour ça qu'on a eu quelques blessés, notamment à Hénin-Beaumont, si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé, notamment ce matin.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, on a suivi à Europe 1 ce qui s'est passé. On l'a vu sur les images, la sociologie du mouvement a changé par rapport aux manifestations de samedi dernier. Beaucoup moins de retraités, beaucoup moins de femmes, surtout des hommes, beaucoup plus jeunes qu'auparavant, qui semblaient plus déterminés. Quelle lecture vous faites de ces observations? C'était des gens qui étaient venus pour casser?
Alors, c'est très compliqué parce qu'on avait vraiment de tout aujourd'hui. Il y avait des gilets jaunes qui étaient de bonne foi, qui voulaient effectivement assurer le côté symbolique,
sur
les Champs-Élysées.
C'était pas la petite mamie qui déterrait les pavés
d'accord.
avec une barre de
on
fer.
On est d'accord, mais il y avait encore des pères de famille et des mères de famille avec des poussettes sur les Champs-Élysées. On en a vu. Il y avait d'autre part des individus qui étaient vraiment venus là pour en découdre, pour créer le désordre, pour brûler, et d'ailleurs ils ont réussi puisque la plupart du mobilier urbain a été saccagé sur l'avenue des Champs-Élysées. Alors c'est vrai qu'en termes d'image, c'est assez dévastateur parce que la plus belle avenue du monde, qui est le théâtre, je dirais, de violences urbaines, en plein Paris, et cela pendant 10 heures, c'est vrai que ça pose question.
Alors, puisque vous parlez d'heures, 10 heures, c'était par exemple des chaînes comme BFM TV, mais pas seulement elles, qui ont montré toutes ces images. La semaine dernière, samedi dernier, BFM était la quatrième chaîne de France devant M6. Ils n'avaient traité qu'un seul sujet, les Gilets jaunes. Aujourd'hui également, leur bandeau, c'était les Champs-Élysées sous très haute tension. Est-ce que c'est également votre ressenti ou est-ce qu'on en rajoute dans le spectaculaire?
Alors, je ne vais pas faire de procès d'intention aux chaînes d'information continue.
Moi non plus, on n'est pas là pour attaquer
voilà.
les confrères.
Ceci étant...
Par définition, je m'empresse de le dire, quand des voitures brûlent, on filme les voitures qui brûlent et on a l'impression toutes les voitures brûlent et les journalistes présents sur place font très très bien leur travail. C'est pas ce que je voulais dire.
Non mais bien sûr.
C'était comment vous percevez cette perception, si j'ose dire.
Alors, l'information, quand elle est donnée et qu'elle est factuelle, pour nous, ça ne nous pose pas de soucis. Là où ça nous pose des problèmes, c'est que c'est lorsqu'il y a des informations qui circulent, effectivement, et qui pourraient mettre à mal, par exemple, de la stratégie sur du maintien d'ordre, d'expliquer où est-ce que les forces se déplacent, qu'est-ce qu'elles vont faire comme stratégie. Voilà, ça, ça poserait un problème en termes d'information. Mais faire de l'information aux citoyens pour qu'ils soient au courant, quand même, que sur les Champs-Élysées, il y a des exactions, il y a des barrières qui brûlent, il y a des barricades qui sont faites, on se croirait d'ailleurs à une certaine époque, je trouve que là, bon, c'est plutôt salvateur pour notamment les personnes. Ce qui est un peu dommage, c'est que on n'a pas fait trop de publicité pour une manifestation qui avait été déclarée notamment, qui était le Champ de Mars, par exemple.
Oui, mais le Champ de Mars, il n'y avait personne. Et puis, il y a la manifestation contre les violences faites aux femmes, et Europe 1 y était. Merci beaucoup, Stanislas Godon. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale.
Europe 1.
Dans un instant, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus calme. C'est la demi-heure culturelle de ce 18-20. Nicolas Caro, Monsieur Livre, sera avec Mathieu Charrier, Monsieur Cinéma. On va reparler d'une nouvelle collection chez Gallimard, du retour des frères Cohen, mais ce n'est pas au cinéma sur Netflix. Et puis enfin, Vanessa Zah, qui est Mademoiselle Bed and Breakfast, est allée dans le pays de notre invité, Joël Dicker, la Suisse.
Dans une minute, il sera 19h30. On retrouve tout de suite Philippe Vandel entouré des journalistes d'Europe 1. On va parler culture.
La demi-heure culturelle de ce 18-20. Bonsoir Nicolas Caro.
Bonsoir.
Vous allez nous parler d'une nouvelle collection chez Gallimard. Mathieu Charrier, le retour des frères Cohen, mais ce n'est pas du cinéma, c'est sur Netflix, c'est bien ça?
Effectivement, on en parlera, bonjour.
Bonsoir Mathieu. Vanessa Zah, bonsoir. Et
bonsoir Philippe.
Vous êtes allé dans le pays de notre invité, Joël Dicker. Ce pays, c'est...
la Suisse romande.
Et notre invité, Joël Dicker, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez seulement 33 ans, c'est ça?
Ou déjà, ça dépend.
Vous avez sorti... Prends ça dans ta gueule, Vandel. Vous avez sorti un best-seller, La vérité sur l'affaire Harry Quimbert, qui s'est vendu, suivant les articles et leur date de sortie que j'ai lu, entre 4 et 5 millions d'exemplaires dans le monde. C'est juste phénoménal. Et qui devient une série internationale en 10 épisodes. Série produite par la MGM avec Patrick Dempsey et Ben Schnetzer. Ça a démarré sur TF1 mercredi et ça a cartonné. TF1 était en tête des audiences, loin devant les autres, avec 5 647 000 téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour parler de cette série. Tout d'abord, d'un mot, Nicolas Caro, vous êtes notre spécialiste littérature. Un mot sur ce livre phénomène, qu'est-ce que ça raconte?
Alors, c'est l'histoire de Marcus Goldman, qui est un jeune écrivain à succès, parce qu'avec son premier roman, il est devenu une sorte de phénomène littéraire, genre Joël Dicker, vous voyez. Et en fait, il mène la belle vie. Maintenant, il n'avait rien et maintenant, il a tout. Et donc, il mène la belle vie, mais il a le syndrome de la page blanche. Il y a beaucoup trop de pression sur lui. Et puis, en plus, il a envie de profiter un peu. Donc, il retarde, jusqu'à ce que son éditeur lui dise maintenant, il faut vraiment l'écrire. Sinon, c'est procès et tout, parce qu'il avait signé pour 5 livres. Et donc, il ne sait pas trop quoi faire. C'est un peu la panique. Il appelle Harry Quimbert, qui était son prof à l'université et qui est aussi un écrivain à succès, mais beaucoup plus vieux, il a 67 ans. Et Harry lui dit, viens chez moi à Aurora, dans le New Hampshire, tu vas prendre le verre et comme ça, tu vas t'aérer un peu et tu pourras écrire. Il y va et tout. Il revoit son vieux prof avec qui est extrêmement charismatique et très élégant et très beau et tout ça et qui a tout. Et puis, il va réussir à petit à petit à s'y remettre. Sauf qu'entre-temps, on apprend qu'on a retrouvé dans le jardin d'Harry Quimbert le corps, enfin ce qu'il en reste, le corps de Nola Kellerghan qui avait 15 ans en 1975 et qui avait disparu en 1975, donc 33 ans plus tôt à peu près. Et voilà, et donc Marcus va décider d'aller aider Harry, qui a été arrêté et accusé du meurtre. Et voilà, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé cet été 75?
Alors moi ma question c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est comment Joël Dicker, ce livre est devenu un film, en l'occurrence une série.
Alors ce livre, quand il est sorti et qu'il a commencé à avoir un peu de succès, a été l'objet de pas mal de propositions par des producteurs, par des réalisateurs.
Pas mal, j'ai lu 90.
En total, oui. Ouais. Wow. Presque 100.
Ouais.
Mais sur les 5 ans qui ont mené de septembre 2012 jusqu'à décembre 2017, et aucune des propositions ne fonctionnait bien, et notamment parce que mon éditeur qui se chargeait de trouver la perle rare voulait vraiment un réalisateur passionné. Et c'est Jean-Jacques Haneau qui a été cette perle rare.
Avant qu'on parle d'Haneau, vous avez vraiment dit non à Spielberg?
À DreamWorks et indirectement à lui. Mais vous savez, c'est-à-dire que...
Faut le faire quand même. Hein.
Mais il faut se rendre compte que les Américains et les studios US surtout, ils ont une passion qui est d'acheter des livres pour éventuellement un jour, peut-être, si jamais vraiment, en faire un film. Et c'est le meilleur moyen de ne pas faire un film. Et il fallait vraiment trouver un projet qui se réalisait. Ça, c'est la vraie difficulté, c'est que le projet aille jusqu'au bout.
Dites l'argument de votre éditeur qui était le regretté Bernard de Fallois pour dire non à Spielberg.
Il disait, je veux que M. Spielberg vienne déjeuner avec moi à Paris.
Il n'a pas voulu, il n'a pas fait le film. comment vous avez choisi Jean-Jacques Haneau, le réalisateur? Il faut dire que c'est lui qui avait déjà mis en image deux romans, et pas des moindres,
ouais.
L'amant de Marguerite Duras et Umberto Eco.
Le nom de la rose et un de ses premiers films, La Guerre du Feu, qui on le sait moins, mais qui est aussi une adaptation d'un roman. Et Jean-Jacques Hanon, pardon, on l'a rencontré pour un déjeuner et on a immédiatement été convaincu par sa passion. C'est vraiment ça. Il voulait le faire, il voulait le faire vite. Et quand il en parlait, on voyait le film devant nous. Et ça a été un très grand plaisir de le voir comme ça à l'œuvre.
Sauf qu'il a décidé d'en faire non pas un film, mais une série. Pour quelle raison? Et est-ce que ça vous a séduit, cette idée?
Alors, mon éditeur Bernard de Fallois, surtout lui et un peu moi aussi, on était accrochés à l'idée d'un film. Mais peut-être parce qu'on n'avait pas assez envisagé la piste d'une série télé. Parce qu'en pensant film, on se disait le seul problème qu'on aura, c'est comment est-ce qu'on adapte ce livre qui fait quand même 650 pages en un film de 2 heures. Et on était inquiet que le tempo et que l'histoire soient vraiment hachés pour tenir ce format qui, au fond, est assez court. Et Jean-Jacques a dit non, mais il ne faut pas en faire un film, il faut en faire une série parce qu'il faut raconter toute l'histoire et seule une série peut le faire. Et il avait raison.
Vous avez dit oui tout de suite?
Tout de suite, ouais.
J'ai vu les 2 premiers épisodes et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le suspense. Je me demande vraiment ce qui va se passer. Je ne vais pas vous mentir, moi, je n'ai pas lu le livre. Or, vous dites que c'est également votre façon d'écrire. Vous ne faites pas de plan. Vous ne savez pas où vont vous conduire les personnages. Vous dire par là que quand vous avez commencé, vous ne saviez pas si Kébert était innocent ou coupable.
Exactement. J'ai écrit le livre sans savoir ce qui se passerait à la fin, sans savoir qui était le coupable, même parce que pour moi, c'était un bon moyen, et c'est toujours un bon moyen de savoir si le livre me plaît. C'est-à-dire que tant que je suis accroché, tant que je me dis « mais qui a
fait
ça ?»
Pardon. Oui. Mais si vous arrivez à la 500e page et qu'il ne vous plaît pas, vous faites quoi? Vous avez bossé pendant 2 ans pour rien?
Je recommence.
C'est pas
ça,
vrai.
C'est d'accord. Mais si, mais c'est important parce que ce n'est pas une question de bosser pour rien, parce que c'est la question de quel est le plaisir que j'ai maintenant.
Non,
c'est
j'ai vraiment bien ça. Compris, c'est, mais c'est... un livre, écrire un livre, ce n'est pas composer une chanson de 3 minutes. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans de travail.
Oui, c'est 3 ans de travail à peu près. Mais ça fait partie du risque, ça fait partie du travail. Il y a des textes où il y a des livres. Mon dernier roman, pour en faire 600 pages, j'ai dû en écrire 1200. Donc c'est, voilà, ça fait partie du jeu aussi.
Comme on dit en France, je ne sais pas si on le dit en Suisse, vous êtes un grand malade. quelle a été votre implication dans l'adaptation? Vous avez tout relu? Vous avez suivi des scènes ou pas du tout?
Non. Alors moi, mon rôle, c'était de trouver celui qui le ferait. Une fois que Jean-Jacques Hanon était l'homme, on l'a...
C'était fini.
On l'a laissé faire.
Non, parce que j'ai lu que vous étiez sur le tournage au Canada.
J'étais beaucoup sur le tournage. Mais pour reprendre une phrase que Umberto Eco a eue à propos de son adaptation du nom de La Rose, il a dit à Jean-Jacques Hanon, il lui a dit « c'est mon livre, c'est ton film ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le livre a été écrit par moi. Et si vous voulez lire ce que j'ai fait, allez lire mon livre. Ensuite, Jean-Jacques Hanon a fait une adaptation très fidèle.
Non, mais j'ai bien compris ça. Mais vous étiez donc tous les jours sur le tournage au Canada, inspecteur des travaux finis, à regarder ce qui se passe.
Non, j'étais dans le plaisir de voir mon livre prendre vie sous mes yeux. C'est très fidèle, donc c'est les dialogues, c'est les détails, tout est là. Et c'était fascinant, c'était comme si le livre existait vraiment.
Et le choix de Patrick Dempsey, que les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices connaissent bien parce qu'il joue dans Grey's Anatomy.
Oui.
Alors, ça s'est fait comment?
Une idée de Jean-Jacques Hanon. Et je me demandais comment est-ce qu'on jouerait ce personnage de Harry qui est là en 1975, qui est de nouveau là en 2008. Et j'avais l'impression qu'il faudrait 2 acteurs pour jouer ces 2 phases de temporalité. Eh bien, pas du tout. Dempsey a été incroyable. Par le maquillage, évidemment, et par tout ce que la décoration et les effets peuvent faire, mais surtout par son jeu. Il a un jeu incroyable et c'est un très grand acteur.
Mais il a été dur à convaincre ?
Non, je crois qu'il était très enthousiaste et je sais qu'il a reçu le scénario et que le lendemain, il était dans un avion pour Paris pour voir Jean-Jacques. Et il était très enthousiaste par ce projet.
Il faut quand même dire que le livre a été traduit dans 40 langues, 4 à 5 millions de ventes. C'était un phénomène quand il est sorti, Nicolas Carreau. Il ressort d'ailleurs le livre.
Oui, il sort en format poche et il y a les photos du tournage d'ailleurs. On vous voit avec Jean-Jacques Hanon, avec Patrick Dempsey.
Et un texte de Jean-Jacques aussi qui explique pourquoi.
Mais Nicolas, raconte le phénomène.
C'était un phénomène, c'était en 2012 il me semble. Et moi, je me rappelle que tout le monde demandait si « est-ce que tu as lu Harry Kébert ?» quoi. Hein, c'est vrai quoi. Vous l'avez vécu comment?
Moi,
comme Marcus dans le livre?
Non, d'abord parce que ce n'est pas mon premier roman et je pense que c'est très différent. J'ai d'abord écrit 5 romans qui ont été refusés par tous les éditeurs et puis finalement un premier roman qui n'a pas marché du tout, qui a probablement été acheté que par mes parents et ma grand-mère et mes cousins. Et donc ensuite, il y a eu finalement Harry Kébert que je ne voulais pas vraiment faire. Et Bernard de Fallois était convaincu, il me disait « mais oui, il faut le faire tout de suite, ça va être super ça ». Je dis « mais non, mais qui va lire ce gros bouquin ?» Et on l'a fait et à ma grande surprise, ça a marché assez vite. Mais de façon, alors aujourd'hui, on se rappelle d'un succès comme ça très prenant, mais ça a mis un peu de temps quand même. Pas des années, mais ça a pris quelques semaines. Donc il y avait quand même au début cette angoisse de dire « mais est-ce qu'on va vraiment le faire ?» Le premier tirage, c'était 6000 exemplaires. Je me disais « mais qui sont les 6000 personnes qui vont acheter ce livre ?» Ma grand-mère, mes parents, vous voyez, moi j'étais plutôt à 3-4 personnes. Donc j'étais très incrédule.
J'ai retrouvé les interviews de vous à l'époque. Vous disiez « c'est 6000 ventes, c'est dingue ». Ensuite, vous avez dit « c'est 30 000, c'est dingue ». Vous avez dit « c'est 100 000, c'est dingue ». Vous avez dit « c'est 500 000, c'est dingue ». Vous avez dit « c'est 1 million, c'est dingue ». J'arrête ici cette litanie. Joël Dicker avec nous sur Europe 1. On se retrouve tout de suite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Europe 1. 19h39, le samedi sur Europe 1, vous le savez, dans votre grand journal du soir, on termine avec la culture, Philippe Vandel.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Nicolas Carreau, avec Mathieu Charrier, avec Vanessa Zah et avec Joël Dicker, auteur suisse de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est un livre et c'est devenu une série qui a démarré ce mercredi sur TF1 et qui cartonne, il y en a encore pour 4 soirées. Mathieu Charrier, vous disiez, le succès du livre, c'était la pochette. C'est parce que vous êtes un homme d'image que vous dites ça.
Pas que,
la couverture.
C'est vrai, je trouvais la couverture particulièrement réussie avec cette image à Edward Hopper. Ça donne envie de se plonger dans l'univers américain. Et je trouve que aujourd'hui, il faut faire un effort aussi sur l'objet livre. Et moi, je me rappelle pour avoir lu le livre à l'époque que c'est aussi juste la photo de couverture où je me suis dit, tiens, c'est un univers dans lequel j'ai envie de plonger. Je ne sais pas si c'est pour ça que vous en avez vendu des millions, mais je pense que ça...
Vous avez raison, vous avez raison. La couverture, c'est très important. Le livre est un objet, donc on doit en faire quelque chose de beau. Et vous avez raison. Et aujourd'hui encore, il y a des éditeurs, nous ne citerons pas de nom, mais qui ne veulent pas mettre de photos sur la couverture. Alors, ce qu'ils font, c'est que vous avez une couverture toute blanche ou toute jaune ou toute quelque chose, et par-dessus, ils mettent un bandeau, ils mettent une image sur un bandeau, comme s'ils n'assumaient pas. Mais en même temps, c'est une image, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est important de donner envie. Et ce n'est pas quelque chose qui est insultant.
On peut se dire que ça peut laisser la liberté totale au lecteur d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer comme décor.
Oui, mais ça ne veut pas dire que vous avez une image, que c'est forcément l'image du livre. Et je crois que l'image, c'est simplement un habillage qui est une porte qui dit bienvenue aux gens. Et c'est important de prendre les lecteurs avec soi, de les emmener, de les encourager.
C'est comme une affiche de film, c'est comme une pochette de disque.
Vous avez absolument raison, c'est comme une affiche de film.
Joël Dicker, vous êtes suisse, vous êtes un petit peu français et les critiques n'ont pas été toujours tendres avec vous. Vous savez qu'on est ici en France, un pays qui n'aime pas le succès. Est-ce que ça a été difficile pour vous, la critique?
Non, mais vous savez, si on reprend l'évolution du livre, il y a d'abord eu des très bonnes critiques parce que n'ont parlé du livre que les gens qui voulaient le défendre. Ils se sont dit, ce bouquin d'un Suisse que personne ne connaît, chez un éditeur plutôt pas très connu, on va le soutenir un peu. Donc les premières critiques ont été que des critiques de gens qui étaient pour. Et puis c'est qu'une fois que le livre a eu un très grand succès, que tout le monde s'est dit, il faut qu'on en parle. Et dans ces gens-là, des gens n'ont pas aimé. Et c'est important aussi, on a le droit de ne pas aimer un livre. Et pour moi, c'est il faut parler de ça aussi.
Vous avez été assez amer après le Goncourt, vous l'avez raté de peu. Vous avez dit, j'ai beaucoup appris sur le milieu littéraire, sur les rapports humains en général. J'ai ouvert les yeux sur le fait que tout le monde n'a pas forcément envie de faire de la vie une fête. Je n'avais pas mesuré combien les gens pouvaient se montrer vicieux et jaloux face au succès. Concrètement, ça s'est manifesté comment?
Mais ce n'était pas les critiques, donc ce n'était pas lié au Goncourt, parce que j'ai été en finale du Goncourt, qui a été une aventure incroyable et qui a été un tremplin très important. Et le Goncourt, c'est ça aussi. Hein. Ce n'est pas forcément qu'avoir le prix, c'est que le Goncourt est capable de rassembler et de mettre en lumière des livres qu'on peut-être des gens n'avaient pas encore lus. Et donc c'est un potentiel plus important. Ça, c'était plus sur des réactions, la réaction de moi face au succès, pas par rapport au journalisme, mais plutôt à des gens que je connaissais. Et j'ai découvert que tout d'un coup, des gens ne vous aiment plus, des amis, des gens proches, tout d'un coup vous tournent le dos dans la rue parce qu'ils vous aiment plus, parce que vous avez eu un succès avec un livre. Donc voilà, c'est l'apprentissage aussi de la vie. Hein.
Bon, je pense que j'ai encore jamais eu de succès. J'ai retrouvé une interview de vous qui remonte à 2012, donc il y a 6 ans, et vous dites, ça m'a bien fait marrer. J'ai envie de retrouver un vrai travail avec des collègues et des horaires. Ça, vous avez oublié.
Ah, j'ai oublié ça. J'ai dit ça, moi.
Oui, vous avez dit ça.
J'ai dit des conneries aussi.
C'était dans le journal Le Temps. Nicolas Carreau, ce soir, vous avez lu pour nous, parce que tiens, juste un mot sur les couvertures, c'est une nouvelle collection de chez Gallimard, c'est plus la couverture beurre frais de chez Gallimard.
Non, c'est un truc très graphique,
avec exactement.
Du orange, du bleu, des petits triangles.
Et c'est le roman d'un dessinateur de bande dessinée.
L'auteur c'est Fabrice Carreau, C-A-R-O, aucun lien avec moi je précise pour éviter les malentendus. Fabrice Carreau alias Fab Carreau, le dessinateur à qui l'on doit notamment Zaï 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 Zaï, gros succès, Mathieu Charrier est fan. Moi je connaissais pas jusqu'à ce roman et maintenant je suis fan aussi, ça s'appelle Le Discours dans la collection Signe de Gallimard, cette nouvelle collection. Donc.
Qu'est-ce que ça raconte? Moi, je le connais et c'est un scénariste de BD exceptionnel.
Et ben, c'est
qu'est-ce
un grand romancier aussi. L'histoire d'Adrien, quadragénaire un peu en crise, il se trouve à un dîner de famille, ça va pas du tout. Sa compagne lui a dit qu'elle avait besoin d'une pause, ça c'est jamais bon. C'était il y a un mois et pas de nouvelles depuis. En plus, Adrien vient de lui envoyer un texto avant le dîner pour avoir des nouvelles en fin d'après-midi. Juste un petit « Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien, bisous !» avec un point d'exclamation à la fin, ça fait plus détendu. Et depuis, ben, il attend que son téléphone vibre, mais rien Donc c'est pas bon du tout.
Et il est où le discours alors ?
Alors justement, il est là. Il écoute son futur beau-frère et ses grandes théories sur la politique et le réchauffement climatique. Et au moment où sa sœur est à la cuisine, le futur beauf lui dit « Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. » Il pose pas la question. Il dit, il demande très clairement à Adrien d'écrire un discours pour la cérémonie de mariage. Ça a l'air de rien, mais ça travaille immédiatement Adrien pendant tout le dîner. C'est un grand angoissé. Et donc le livre nous plonge dans la tête d'Adrien, en train d'essayer d'écrire son discours mentalement et au passage de refaire le film de sa vie pour comprendre ce qui cloche chez lui, comment sa vie se résume à ne pas faire de vagues pour éviter d'avoir à les surmonter, avec parfois des nouvelles du dîner. C'est un livre sur notre rapport aux autres et à la solitude. Dit comme ça, ça pourrait paraître un peu déprimant,
un peu, ouais.
Mais pas du tout, parce qu'avec l'écriture de Fabrice Caro, ça devient très très drôle, un humour désespéré. Le seul qui vaille.
Parce que c'est bourré de jeux de mots, comme dans ces bandes dessinées de...
Pas trop de jeux de mots, mais des considérations. Par exemple, la vague qu'il n'a pas envie de créer pour ne pas la surmonter, c'est qu'il nous parle, par exemple, d'un truc qu'il avait fait quand il était à l'école pour sa maman, un porte-manteau. Ça devait ressembler à un sapin, mais en fait, ça ressemble à un phallus. Et sa mère l'a toujours gardé parce que lui, il n'a jamais osé lui dire « Tu peux l'enlever, c'est pas grave, ouais. Je sais que c'est moche. »
Donc, il y a un énorme phallus quand on arrive chez eux.
Sur la porte de la cuisine. Voilà.
Super, c'est bien. Salut au facteur. Le discours donc de Fabrice Caro, c'est chez Gallimard. Merci Nicolas, vous êtes un grand lecteur. Joël Dicker, vous avez le temps de lire ?
Je lis pas mal, oui. Après, il y a des gens qui lisent. Je parle à quelqu'un qui lit à peu près 30 livres par mois, donc je ne lis pas 30 livres par mois. Ouais. Mais ce livre a l'air excellent, ça donne très envie. Très, très ça bon. Donne très, très, très envie.
On est samedi. Je vous pose la question parce que qu'est-ce que vous faites le week-end ?
Ça dépend des week-ends.
Vous avez dit que vous détestiez les week-ends. C'était oui, le sens de ma question.
C'est vrai ?
Ouais.
Bah, j'aime pas le week-end alors.
Mince alors.
Il se rend compte que quand on fait beaucoup d'interviews, on sait plus très bien ce qu'on a dit.
Non, parce qu'il a dit je peux rester des heures devant la télé à regarder du tennis, du hockey, de la Formule 1, du foot et même du curling. Je me dis c'est quoi la vie de ce gars ? C'est non, vous qui avez dit ça ou pas ou...
Mais je crois que vous ressortez un tout petit peu du contexte, à mon avis, qui était de dire est-ce que je regarde du sport à la télévision ? Oui. Ouais. J'adore le sport à la télévision, j'aime bien faire du sport, mais je peux regarder tous les sports possibles et imaginables à la télévision, ça me fascine.
D'accord, je suis content d'entendre ça.
On peut regarder du curling ensemble si vous voulez.
Moi j'ai toujours pas compris les règles. Ouais. J'ai toujours pas compris les règles, vous les avez comprises.
C'est un peu comme la pétanque si vous voulez.
Non. À la pétanque, il n'y a personne qui frotte le terrain par terre pendant que la boule avance.
C'est que vous frottez, soit vous frottez pour l'aplanir et que le galet avance plus vite, soit vous frottez pour l'abîmer et que le galet ralentisse. C'est exactement. Très facile.
Vous êtes des fous, mais c'est pour ça que je vous aime. On se retrouve tout de suite dans la dernière ligne droite de cette dernière demi-heure culturelle.
Il est 19h47 et on retrouve Philippe Vandel pour notre table ronde culture.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Nicolas Caro, avec Mathieu Charrier, avec Vanessa Zah, notre invité Joël Dicker, dont le best-seller La vérité sur l'affaire Harry Kéber devient une série en 10 épisodes. C'est produit par la MGM avec Patrick Dempsey et Ben Schneider. Ça a démarré mercredi et c'est signé Jean-Jacques Hano. On va parler cinéma avec vous, Mathieu Charrier. Une fois n'est pas coutume, vous voulez nous parler ce soir d'un film que l'on ne verra pas au cinéma, mais sur Netflix. Et pour cause, c'est le nouveau film des frères Coen.
Oui, La balade de Buster Scruggs, disponible effectivement uniquement sur Netflix. Alors on va y revenir, mais d'abord, pourquoi il faut le regarder ? Parce qu'on retrouve le côté farce que l'on aime chez les Coen. Ce film, vous savez, c'est un western. Alors en fait, une succession de 6 contes d'une vingtaine de minutes sur la conquête de l'Ouest américain. Au début d'ailleurs, ça devait être une série. Finalement, c'est un film et il y a une histoire par chapitre avec ses décors, Monument Valley, des saloons tout en bois et un brin miteux, des chercheurs d'or, bien sûr, des banques. Et leur coffre-fort à braquer, et au milieu, le bruit des armes et des pistolets qui claquent. Certains des récits sont un peu violents, il y a pas mal de morts, mais quel plaisir de voir des acteurs que l'on aime s'amuser dans ce genre de décor, comme Liam Neeson, James Franco, Tom Waits. Tous jouent de la gâchette avec beaucoup de dextérité extrait.
Mes amis, ici, dans le Grand Ouest, la situation peut vite dégénérer.
Vous croyez qu'ils vous racontent des histoires ?
Bon, il n'y a plus qu'à chercher, tu crois pas ?
Vous connaissez l'histoire.
Il y a deux catégories d'hommes.
Les chanceux et les autres.
Les faibles et les forts.
Les pêcheurs et les honnêtes gens.
Non. Mort ou vif.
J'apprécierais que vous alliez déposer votre arme dans le réceptacle qui se trouve juste à côté des portes battantes.
Et si je refuse ?
Et si je refuse, ça va évidemment dégénérer. Alors c'est une balade ce film hein, dans le Grand Ouest. Je vais pas vous dire que c'est le plus grand film des frères Coen, mais sincèrement on passe un bon moment. Dans la veine d'ailleurs, je sais pas si vous l'aviez vu de leur précédent film avec César, avec George Clooney qui était là aussi bourré d'humour, un peu noir parfois. Voilà La balade de Buster Scruggs qui a d'ailleurs reçu le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise.
Mais alors vous nous disiez Mathieu que ce film n'est disponible depuis hier que sur Netflix. Ça veut dire qu'on peut pas le voir dans les salles de cinéma ?
Eh bien a priori non, en tout cas pas en France, ça c'est sûr, en raison vous savez de la chronologie des médias qui obligerait Netflix à attendre 3 ans après l'avoir montré en salle pour pouvoir le proposer à ses abonnés français. 15 mois seulement si la réforme qui est en préparation passe. Mais évidemment, ça reste inimaginable pour la plateforme dans cette ère de l'immédiateté. Et on peut le regretter, franchement, parce que, nouvelle fois, c'est un film de cinéma comme d'autres qui vont sortir dans les prochaines semaines sur Netflix. On peut citer le formidable Roma d'Alfonso Cuarón, que j'ai eu la chance de voir, qui va arriver. On peut aussi parler du prochain film de Scorsese, vous imaginez, qui ne sortira pas dans les salles, du prochain Guillermo del Toro autour de Pinocchio. Bref, pas mal de films de grands réalisateurs qu'on sera obligé de regarder sur notre télé. Alors les frères Cohen, ils expliquent dans une interview au Journal du Dimanche qu'il est très difficile de trouver de l'argent pour financer des films autres que des grosses productions, même quand on s'appelle, c'est dire, les frères Cohen, et qu'ils se sont donc eux aussi tournés vers Netflix. Il y a cette citation dans l'interview qui fait quand même réfléchir. La créativité qui a déserté Hollywood, on la retrouve chez Netflix ou Amazon. Ça devrait faire réfléchir les grands studios de production. Netflix qui d'ailleurs remporte des prix dans les grands festivals. Netflix qui sera dans les candidats sérieux aux prochains Oscars. Bref, Netflix qui est en train de chambouler l'ordre cinématographique mondial.
Donc on peut découvrir le dernier film des frères Cohen. Il s'appelle La balade de Buster Scruggs. Merci Mathieu Charrier. J'ai vu les publicités sur les bus dans ouais, Paris. Donc même... c'est comme un lancement de cinéma normal.
Et le pire, c'est qu'ils ont même acheté la une du film français, qui est le magazine de référence pour les professionnels du cinéma, pour faire la promo de ce film. C'est dire s'ils vont loin.
Joël Dicker, vous êtes fan des frères Cohen ?
Je suis fan des frères Cohen, mais je suis très interloqué par ce que vous dites, que même eux n'arrivent pas à trouver de l'argent. Et Hollywood est marche complètement à l'envers, et ils ont vraiment tort. Et tous les talents vont vers les plateformes qui ont de l'argent et qui veulent faire des vraies choses et pas des films de super-héros et de super je sais pas quoi. On en a marre, on veut de la création. Et c'est très dommage.
Est-ce que dans les 90 producteurs qui voulaient adapter votre best-seller La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, est-ce qu'il y avait Netflix ?
Il n'y avait pas Netflix, mais en fait, Netflix elle-même, en général, quand elle fait une production, c'est un producteur qui s'affilie avec. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des talents qui migrent vers eux, parce que c'est un aimant qui a de l'argent et qui attire ça, et qui donne aussi une liberté très importante que les studios n'offrent plus vraiment.
C'est ça, ils ne regardent pas ce que vous faites. Ils vous achètent une marque, ils achètent les frères Cohen, allez-y, faites-vous plaisir. Ils donnent l'argent, ils peuvent donner 150 millions de dollars, ça ne leur fait pas peur.
Une autre marque en trois lettres, ZA, Vanessa ZA. Vous avez mis votre montre à l'heure suisse, l'heure de Joël Dicker. Vous nous avez concocté un week-end sur le lac Léman à Montreux, à l'occasion du Montreux Comedy Festival. Et là, il va falloir être talentueuse parce qu'il est en face, il surveille.
Attention, donc le festival Indifact qui va accueillir les meilleurs humoristes francophones dès le 29 novembre. Et donc, c'est l'occasion de découvrir Montreux et le lac Léman. Alors, est-ce que vous savez à qui l'on doit la création justement de Montreux ?
Non, à Deep Purple.
Eh bien, aux écrivains.
Voilà. Non, parce que Smoke on the Water, ça se passe à Montreux. Ils arrivent au festival de Montreux, il y a du feu et Smoke on the Water, c'est ça.
Je pensais que vous alliez me dire Freddie Mercury, parce qu'il avait installé justement aussi à Montreux un studio. Eh bien non, ce sont les écrivains. Le premier à lancer à Montreux, c'est Jean-Jacques Rousseau, avec son livre La Nouvelle Héloïse. Donc ces deux héros, Julie et son précepteur Saint-Preux, s'aiment en cachette à Clarence, le quartier ouest de Montreux aujourd'hui. Et son roman est un tel succès à sa sortie en 1761 que de nombreux Anglais viennent en pèlerinage en quelque sorte sur ces lieux. Et puis après, c'est au tour de Lord Byron d'y mettre sa touche. On est au début du 19e. Il écrit son poème Le prisonnier de Chillon, qui est un clin d'œil au château de Chillon, qui est construit sur un pic rocheux au bord du lac. Très romantique, ce qui va attirer une deuxième vague de touristes, même si le terme n'existe pas vraiment encore, Philippe, à l'époque. Et c'est à ce moment-là que le village de Montreux ouvre une première pension, un hôtel, puis un second, etc. et devient une destination touristique avec l'arrivée donc de l'Orient Express. Aujourd'hui, il existe justement des balades sonores pour partir sur les traces de toutes ces personnalités qui ont foulé Montreux et le canton de Vaud. Il y en a une trentaine, comme Madame de Staël ou Audrey Hepburn. Et pour ça, il n'y a pas besoin de prendre un guide. Il suffit de télécharger une appli gratuite Rencontre Inspiration.
Et autour de Montreux, qu'est-ce qu'on peut faire dans les environs ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Alors, quand vous débarquez évidemment au festival, vous tombez en plein milieu donc du marché de Noël, un marché de Noël qui vaut évidemment le coup. C'est l'un des plus beaux, l'un des plus grands, avec les petits chalets qui longent le quai. On est vraiment dans l'image d'Épinal, c'est vrai, ouais. Mais ça fait du bien.
Enfin, Épinal, c'est pas à Montreux. Bon. Je vous dis juste ça comme ça.
Et à quelques kilomètres de Montreux, en revanche, il y a un musée incontournable qui vient d'être élu meilleur musée d'Europe par l'Académie européenne des musées. C'est le Chaplin's World by Grévin, qui se trouve à Corsier-sur-Vevey. Et ça, c'est un bon mix entre culture et divertissement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Joël Dicker, vous l'avez vu ou pas ?
Je n'ai pas vu le musée, mais c'est à Vevey que Charlie Chaplin a fini sa vie. Donc près de Montreux, ces deux villes sont vraiment qui se touchent presque. Allez visiter, c'est très beau, vive la Suisse.
Alors justement, on plonge dans l'intimité de Chaplin, on déambule dans son fameux manoir, hein, le manoir de Ban, dans lequel il a vécu, comme vous l'avez dit, les 25 dernières années de sa vie, puisque le McCarthyisme lui interdisait de revenir aux États-Unis. Et là, on découvre qu'il est très attaché à ses enfants via des photos, des films, mais aussi bien acharné au travail. On apprend même que c'est au manoir qu'il a filmé la comtesse de Hong Kong avec Sophia Loren et Marlon Brando. Quant à son univers cinématographique, ils ont recréé un grand studio hollywoodien qui est assez bluffant. Vous déambulez dans les décors donc, de ses plus grands films qui sont en même temps projetés avec des images. Vous êtes en immersion totale avec une trentaine de personnages créés par Grévin, des personnages comme Churchill ou Keaton. Voilà, il s'est tellement réussi qu'on en reste muet, ça c'était pour le jeu de mots.
Ah oui, l'humour, dis donc. Quelques adresses alors pour ce week-end à Montreux, Vanessa ?
Alors, le trajet évidemment, Paris-Lausanne à faire en TGV, TGV Lyria. Et j'ai deux hôtels à vous proposer. Le Fairmont Montreux Palace, histoire de revivre l'élégance.
Avec le nom, on sent que ça va coûter un bras.
On se fait plaisir, mais en même temps, quand on s'appelle aussi Joël Dicker, on a envie d'y aller parce que Nabokov. Exactement, il y a séjourné. Et puis sinon, beaucoup plus traditionnel, le Coucou, qui est un chalet suisse très raffiné. 1200 mètres d'altitude et là on est à Caux et ça vaut le coup, même la table y est très bonne.
Ça vaut le coup, ça vaut le coucou. Je ne vais pas vous demander, Joël Dicker, pourquoi vos romans ne se déroulent pas en Suisse. Vous avez répondu des dizaines de fois à cette question, mais est-ce qu'un prochain va se dérouler en Suisse?
J'espère bien, j'aimerais bien, mais une difficulté pour moi de la Suisse jusqu'à maintenant, c'est comme j'y vivais, enfin j'y vis toujours, mais c'est, je trouve que la réalité par rapport à la fiction parfois est difficile et que de raconter une ville imaginaire en Suisse pour me sentir plus libre, j'aurais de la peine à la placer parce que la Suisse est très occupée, sinon il y a des montagnes, des lacs et puis le reste, il y a des villes partout. Et je trouve que cette liberté de l'esprit, elle est plus facile dans un pays plus vaste comme les États-Unis, mais j'espère que, et je pense que ça finira par changer.
Merci d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup.
Mais on aurait pu croiser Vanessa Zah dans un de vos romans. Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Jacques Hano. Ça a commencé ce mercredi et ce fut un carton. Plus de 5 600 000 téléspectateurs. Merci beaucoup Vanessa, Mathieu et Joël Dicker.
Europe 1.
Et la soirée continue évidemment. Dans un instant, vous retrouvez Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Bonsoir Marlène, bonsoir à toutes et tous. Nous, on se retrouve demain à 18h. Bonne soirée à l'écoute d'Europe 1.
Bonsoir Philippe.